Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle soirée de Ligue des Champions. Enfin, belle soirée, pas pour les clubs portugais. Deux défaites aujourd'hui sur les deux matchs donc entre Braga et Napoli et Benfica contre Salzbourg. Donc voilà, hier on a eu une belle soirée avec la victoire du FC Porto et des joueurs portugais qui ont brillé. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Donc voilà, c'est les aléas du football, en espérant que demain Sporting sauve un peu cette semaine portugaise. Mais voilà, on va débriefer tout ça avec nos collègues et on va espérer être le plus objectif possible en mettant de côté certaines émotions, même si je sais que c'est très dur quand il faut enchaîner directement après des défaites comme ça aussi rageuses. Donc voilà, pour m'accompagner ce soir, j'ai Mathieu. Mathieu, comment tu vois?
Bonjour, bonsoir.
Un petit mot sur José Smith, je pense que.
Je l'adore, je l'aime. Franchement,
Ah,
je sais, je le kiffe. Hein, j'adore l'homme et tout. Mon ref, là, faut aller sur le banc.
à la retraite, même, je pense que même sur le banc, c'est.
Non, parce que oui.
On va
Non,
en
dans
débattre.
les en fin de match, tu dois défendre dans la surface, ça peut faire du bien, mais là, face à Osimhen, c'était compliqué.
C'était compliqué. Ensuite, on a donc deux amis béfiquistes. Le retour de Dani. Comment tu vas, Dani?
Ça va très bien, ça va très très bien. Au top. Vraiment au top là. Je suis bien. Je suis bien.
Ah, quelle
Toi,
soirée.
tu viens dans les mauvais moments, hein, c'est sur Golasso. En
Oh,
fait, le gars a gagné un titre, pas venu.
c'est
Mais quand il se fait allumer chez lui en Ligue des Champions, il vient.
la force mentale. C'est comme ça qu'on voit les.
C'est le mental, c'est
C'est
comme
comme
ça.
ça.
Phil, comment tu vas?
Bonsoir. Hein?
Ouais, ok, c'est rien, je me disais que t'avais
Non,
pris
c'est
les
le
deux
mec qui
premières.
est sérieux.
Non, c'est ma musculature, c'est la prise de masse. Non, j'ai pris, mais pas de la masse aujourd'hui. Si tu vois ce que je veux dire. Non, ravi d'être là après mes vacances, être avec vous pour débriefer ce match digne de Football Manager, comme on l'a rarement vu. Donc ouais, ravi d'être parmi vous ce soir. Ça se voit, je pense.
J'ai ça, moi. Ah, elle me filme de rire, ça y a... Ça va pas être facile. Bon, on va commencer directement par le début de Braga. Phil et Dani de débriefer ce match-là, mais on va commencer par le match entre Braga et Nap Mathieu. Bah, je suppose que Dani et Philippe ne vont pas regarder.
Bon,
Personnellement,
j'aurais pu, hein.
j'ai regardé les 20 minutes de Benfica. Et ensuite, c'était un 20 belles premières minutes d'ailleurs, mais ensuite, à la main de Antonio Silva, j'ai vite compris la tournure du match, plus le pénalty forcément. Donc je suis passé sur Braga, et qui a été aussi un très bon match, Mathieu, un vrai beau match. Si on enlève un peu côté émotion, etc., en tant que neutre, j'ai vraiment assisté à une très belle prestation entre deux belles équipes, et surtout Braga qui a regardé Naples dans les yeux. Le champion d'Italie, je rappelle, alors que même si oui, ce début de saison est compliqué de la part du Napoli, avec notamment l'entraîneur qui est Rudy Garcia, qui reste un choix incompréhensible pour un club comme Naples. Mais bon, voilà, il fallait faire le match, il fallait faire ce genre de match pour montrer comme quoi Braga avait le niveau de la Ligue des Champions. On n'en doutait pas, mais certains peut-être qui ne regardaient pas forcément le championnat portugais pouvaient émettre des doutes ou même des critiques envers ce club. Mathieu Braga a vraiment fait une très très belle prestation. Voilà, ce but en fin de match qui est cruel, mais ça méritait bien plus qu'une défaite.
Ça va être dur de sortir un peu des émotions. Alors déjà, je suis très content de faire un live Golasso de Braga en Ligue des Champions, un mercredi déjà. 5 saisons pour ça, c'est cool, mais c'est
Ah,
vrai
t'avais
que
fait que le
j'aurais...
jeudi, toi, c'est vrai.
Ouais, moi j'avais fait que le jeudi. T'as fait le jeudi aussi un peu, toi.
Ouais, un an.
Ouais, début, hein, si. Non, 2 ans. Non, peut-être un an,
Ah
je sais
non, ah non.
plus. Ouais, t'es reversé des fois aussi. Mais globalement, oui, j'aurais préféré perdre 1-0 et ça aurait été... Mais perdre, voilà, le scénario est cruel parce que globalement, oui, je trouve qu'on fait un match très sérieux, un match qu'il fallait faire après les dernières prestations de l'équipe en championnat qui ont été plus que moyennes, que ce soit face aux Orléans ou face aux Falaises. On ne s'attendait pas forcément à un si bon match. Alors, c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que Naples crée beaucoup d'occasions. Naples, pardon, a des excellentes individualités. Je pense qu'on a eu un mal absolument atroce à contrôler Victor Osimhen dans le jeu aérien. Pas tant pas tant dos au but. Des fois, il s'en est sorti, mais je trouve que des fois, quand il essaie de combiner, on a eu un Niakate, et parfois un Fonté, trop rarement, mais parfois un Fonté, surtout un Niakate qui a réussi à le contenir un petit peu. Mais globalement, j'ai trouvé que l'équipe, il y avait un... Voilà, l'équipe a essayé de produire son jeu. Je trouve qu'elle est des fois encore un peu trop timide. Et en fait, c'est l'action de Pizzi qui le démontre encore. C'est un peu quand tu es dos au mur sur la dernière action, tu sais que tu dois marquer. Et ben là, tu fais les passes que tu aurais pu faire un peu avant. Et la passe de Bruno de Bruma sur ce qu'on appelle demi-espace de Pizzi qui a un centimètre de fer but, qui fait un poteau rentrant qui sort, c'est génial. Qui aurait pu nous donner cette égalisation en fin de match, démontre que voilà, qu'il y a un peu les mêmes lacunes malheureusement que face au Sporting il y a quelques semaines, dans le sens où tu arrives à avoir parfois le ballon, tu arrives à le contrôler, tu arrives à plutôt progresser. Le Moussrati qui fait un match absolument, je trouve, extraordinaire. Je trouve que c'est le joueur, c'est la Ligue des Champions, donc je rêve de ce match-là, j'ai rêvé de ce match-là toute ma vie et aujourd'hui je démontre. Alors il y a eu quelques petites pertes de balles qui étaient un peu problématiques en deuxième mi-temps et qui ont donné quelques contres pour le Napoli, mais globalement le garçon fait un match qui te permet de progresser dans le terrain, qui te permet de passer ta deuxième phase de construction à ta troisième phase de construction, et ensuite d'essayer d'attaquer ce dernier tiers. Le but arrive un peu d'un centre de Salazar sur Bruma, qui, j'irais pas un peu de nulle part, mais un peu quand même, parce que c'est pas vraiment des actions qu'on voit souvent de Bragas en championnat et qu'on voyait la saison dernière, ce genre de centre, surtout pour Bruma, donc c'est dire à quel point... le but dans le dernier tiers, j'ai pas encore totalement retrouvé en fait le dynamisme et les dynamiques qu'on revoit pour du Sporting Club de Braga pour attaquer ce dernier tiers. Ouais, vas-y Alex.
Je voulais dire que tu as notamment parlé de l'attaque de la profondeur et on souligne l'énorme match d'Al Moussrati qui c'est pas un match one shot comme ça pour Ligue des Champions. Non, il a vraiment l'habitude de faire ce genre de prestations, mais aujourd'hui il s'est mis encore plus au niveau et a montré que c'était un joueur de Ligue des Champions qui doit jouer la Ligue des Champions tous les ans. Voilà, on le répète depuis maintenant très longtemps, Braga c'est sûrement le meilleur élément, mais aussi tu parles de cette attaque de profondeur et on a vu aussi pourquoi Alvaro Diallo était titulaire justement pour cette attaque. Il a fait énormément de mal, je trouve, surtout en première mi-temps, sur cette attaque de profondeur, sur vraiment mettre en difficulté la défense napolitaine par sa vitesse, par ses appels en profondeur entre l'axe central et les latérales. Et vraiment, ces côtés aussi provocateurs où t'avais Bruma et Diallo vraiment qui percutaient et qui vraiment faisaient du mal à cette défense napolitaine. Et je trouve que ça a été aussi une bonne idée de la part d'Arthur Georges d'utiliser vraiment deux ailiers pour vraiment attaquer la profondeur, parce qu'on sait que la défense du Napoli en ce début de saison est très friable.
Oui, t'as parlé de Diallo, je parlais aussi d'Abel Ruiz, qui fait quand même aussi 2-3 appels de grande qualité. Mais Diallo, dans ce match-là, en fait, ça m'étonne pas, dans le sens où tu sais que tu vas avoir un peu moins le ballon que d'habitude, que tu vas avoir un Napoli qui va être un peu plus écarté sur la verticale, et donc tu vas avoir ces actions, tu vas avoir des 1 contre 1, tu vas avoir moins de couverture de la part de l'équipe adverse, et d'avoir deux ailiers, et dont un, parce que je trouve que Roma attaque pas tant la profondeur que ça, je trouve que vraiment Diallo l'attaque et est capable de l'attaquer, c'est pour ça qu'il peut jouer aussi neuf parfois dans cette équipe-là, parce que t'as deux joueurs, donc t'as Abel Ruiz et lui qui peuvent vraiment attaquer cette profondeur et peuvent faire mal sur à la fois sur le côté, à la fois dans l'axe, et un Diallo aujourd'hui qui sort une prestation aussi, je trouve, enfin surtout une première mi-temps de très très grande qualité, deuxième mi-temps un peu moins bien parce qu'à chaque fois qu'on avait le ballon finalement Naples reculait beaucoup plus qu'en première mi-temps et nous on partait de plus loin dans ces transitions mais faisait quand même mal sur pas mal d'actions, mais j'ai trouvé que Diallo en première mi-temps a fait un match superbe, sachant que c'est même pas son côté de prédilection, c'est un joueur qui a été formé à gauche un peu dans le même style que Bruma, en attaquant plus la profondeur que lui, mais qui a joué même dans l'axe en équipe avec Braga, et d'Arthur Georges d'ailleurs, et maintenant voilà, il joue sur ce côté droit, et malgré tout il est convaincant, il est performant, et il fait des différences, il crée des équilibres, et face à une équipe qui laissait forcément plus d'espace, parce que ça reste une très grande équipe, et qui a forcément joué sur ton premier temps plus haut, et qui a essayé de récupérer le ballon assez haut, on a eu un Alvaro Diallo qui a dribblé, qui a feinté, qui a porté le ballon, qui sort une action, un moment incroyable, petit pont conduite et décalage à l'opposé sur Bruma. Donc déjà, même dans la prise de décision, je trouve que c'est bien meilleur, et je fais un big up à Aton parce qu'il a raison sur ce point-là. Mais voilà, oui, donc sur ce match-là, je comprends qu'on est Diallo. Sur des matchs de championnat, je ne comprends pas trop qu'on utilise deux joueurs qui, face à des blocs qui sont beaucoup plus bas et beaucoup plus fermés, sont... Je ne dis pas que Jao n'est pas incapable de jouer à l'intérieur parfois. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense, et il a déjà démontré qu'il peut jouer neuf. Mais jouer à l'intérieur côté droit en étant droitier, je pense que dans l'orientation, il n'est pas encore totalement prêt pour faire les différences qu'il est capable de faire écarté sur le côté droit. Mais voilà, avec lui et Al-Mousrati, je suis complètement d'accord avec toi que ce sont les deux joueurs qui ont vraiment impressionné aujourd'hui du côté du Sporting Club de Braga.
On parle des points positifs, on peut parler aussi un peu des points négatifs de ce soir de Braga, et c'est normal pour un retour après une dizaine d'années sans Ligue des Champions. C'est peut-être aussi la frébilité au niveau technique. Il y a eu pas mal de déchets simples, des passes loupées toutes simples, peut-être dû à un manque de concentration ou peut-être une pression supplémentaire qui peut se comprendre. On sait que sur ce genre de match, ça se joue à des détails. On le voit sur le but de contre son camp de Niakate où c'est une mauvaise relance de Fonte et derrière tu te prends un but rapidement. Mais aujourd'hui, on peut aussi émettre quelques critiques. C'est que si tu affrontes un Real de Madrid, par exemple, ou un Bayern ou quoi, si tu affrontes même le Naples de l'année dernière, tu peux vite te retrouver à 2-3-0 en premier temps à cause de ce déchet technique qui s'explique aussi par la pression.
Oui, bah, tu le vois sur le but.
Verticalité, il y a des prises de risque, etc. Donc forcément, oui. Ça tend à avoir des déchets. Mais je trouvais quand même qu'il y avait des gestes que normalement, Braga ne loupe pas. Quoi. Ou des joueurs de Braga ne loupent pas.
Oui, je te dirais qu'il faudra voir un peu le constat sur toute la campagne pour voir si l'équipe arrive à répondre sur ce point-là, à répondre un peu mieux que sur ce match-là. J'ai trouvé que c'était par période. Voilà. Des fois, j'ai trouvé qu'il y avait une précision sur certaines passes intérieures, notamment parfois de Borja et de Gomez pour surpasser le pressing qui n'était pas vraiment du pressing de la part de Napoli, qui nous a facilité un peu aussi certains moments dans le sens où tu ne peux pas. C'est pas pour nous vanter, mais tu peux pas nous demi-presser quand t'as Al-Mousrati, en fait. C'est juste si tu presses à moitié, que tu vas pas forcément chercher même les latéraux. Bon, on reste une équipe qui a un peu de qualité et on va réussir à trouver certaines passes intérieures si tu t'écartes et que tu nous fais pas réellement mal dans le pressing. Mais globalement, après, tu as eu des moments où ouais, même Al-Mousrati a perdu des ballons. José Fonte avait très bien commencé son match avec cette offrande à Osimhen. Donc, tu as eu pas mal d'actions, tu as eu quelques actions comme ça. J'attends de voir un peu. Parce que voilà, on ne peut pas non plus omettre, et ça, malheureusement, on n'a pas tant de preuves que ça, mais que pour beaucoup, c'était le premier match de Ligue des Champions de leur carrière. Et que forcément, on peut supposer une certaine pression, une certaine anxiété vis-à-vis d'une telle rencontre et pas face à n'importe qui. On parle du champion d'Italie qui a quand même impressionné tout le monde la semaine dernière et certains joueurs étaient l'année dernière, la plupart étaient, enfin je crois même que tous étaient déjà la semaine dernière, donc c'est dire à quel point cette équipe pouvait poser une certaine anxiété en début de match, mais à part ça, voilà, après il y a eu des moments où je trouve aussi on a quand même bien combiné, surtout grâce à Al-Mousrati, enfin, je vois bien, mais des fois il y a certaines passes, bon, ces fameux renversements de jeu, cette capacité des fois à trouver certaines passes verticales qui donnent notamment en deuxième mi-temps l'action de Ricardo Horta face au jeu qui dévisse un peu sa frappe. C'est un point à analyser d'ici la fin de la campagne pour Braga et de savoir comment maîtriser cet aspect-là sur des grands matchs qui t'attendent les 5 prochains grands matchs.
Et au-delà de ça, tu as une très bonne attitude, c'est pour ça que la défaite est rageante, parce que tu sens vraiment que tu peux aller chercher au moins ce match nul, voire même la victoire. Enfin, quand tu vois le début du match ou quoi, où tu te dis, bon, c'est vraiment le début du match, parfois est indicateur de la suite, et tu te dis que non, Braga regarde Naples dans les yeux et que bah, une victoire est possible, largement possible. Ensuite, bah, finalement, forcément, quand tu encaisses le premier but, etc., tu te dis, bon, bah, le nul au moins pour espérer ensuite peut-être une qualification pour la suite, même si là, c'est pas terminé, même si ça va être très compliqué. Mais tu te dis quand même bah, que tu envoies quand même un beau message à l'Europe, du sens où bah, Braga n'est pas là pour être un simple figurant et va poser des problèmes à toutes ces équipes, notamment on a vu sur la combativité, sur les seconds ballons, sur les transitions offensives, etc., où vraiment tu sens que Braga peut faire mal à n'importe quelle équipe.
Oui, et je t'aurais dit qu'un bon résultat aussi te permet de récupérer de la confiance, simplement faire un match nul face à Napoli, c'est aussi pour la poule, bien sûr, mais c'est aussi par rapport au fait que le championnat est compliqué en ce moment, que le début de saison a été relevé d'un point de vue de l'intensité, d'un point de vue émotionnel aussi par rapport à cette qualification face au Panathinaikos, et que globalement, ça aurait fait du bien après le non-match qu'on fait face au Farien ce week-end dernier, vraiment l'un des pires matchs que j'ai vu en championnat du Sporting Club de Braga. Donc ça, juste pour ça, j'aurais aimé quand même qu'on récupère la ZU.
Justement, encore mieux.
Non, mais c'est juste pour dire que c'est surtout pour la confiance globalement et pas que sur la Ligue des Champions que ce match nul aurait été bien pour l'équipe.
C'est ça, je voulais revenir un peu sur ce début de saison du coup qui est quand même compliqué, même très compliqué pour Braga qui se retrouve déjà un peu distancé en championnat et là qui perd contre Naples. Comment tu vois la suite? Est-ce que tu es inquiet ou pas? On sait que Salvador parfois peut vite péter un câble et prendre des décisions assez radicales. Est-ce que tu as des inquiétudes pour l'avenir d'Arthur Georges ou tu sens que vraiment bon, voilà, c'est encore l'homme de la situation? Je pense que oui, parce que quand tu vois l'attitude des joueurs aujourd'hui, quand tu vois le niveau de jeu aujourd'hui encore, tu sens vraiment que c'est encore l'homme de la situation. Mais est-ce que tu n'as pas peur qu'à tout moment, Salvador puisse péter un câble et vouloir changer d'entraîneur?
Moi, je pense qu'il s'est un peu assagi, parce qu'il n'a pas viré de coach en cours de saison depuis Ricardo Sapinto, donc ça remonte. Mais ça remonte à 3 ans maintenant. Mais non, je pense pas, parce que ce match-là, si tu le regardes, oui, il est rageant sur le résultat, mais comme tu l'as dit, l'équipe a été compétitive. L'équipe a montré des indices que certes, face à une équipe comme Napoli a créé des occasions, que le Napoli t'a fait mal sur la largeur encore. Et c'est vrai que ce qui peut être un peu... Le bilan à la fin de la saison qu'on pourrait faire aussi, c'est de savoir est-ce que sur les faiblesses qu'on a évoquées et qu'on a identifiées à la fin de la première saison, est-ce qu'ils sont gommés d'ici la deuxième saison rapidement? Et actuellement, c'est pas ce que je vois. Je vois pas une équipe qui défend en bloc mieux que d'habitude. Je vois une équipe qui est capable de défendre avec de la volonté, qui est capable de parfois de se surpasser, mais parfois aussi de faire d'énormes erreurs comme sur le deuxième but. Mais globalement, je vois pas une équipe qui s'améliore radicalement en termes collectifs quand il s'agit de défendre en bloc. Et aujourd'hui, encore une fois, je trouve que l'équipe sur la largeur s'est fait manipuler de manière beaucoup trop facile. Tout simplement, c'était trop facile pour les latéraux, pour les ailiers de Napoli de décrocher, d'attirer trop loin un Borja ou un Victor Gomez, et en début de match notamment un Zambo Anguissa ou un Zielinski attaquer l'espace central latéral. C'est des petites choses qu'on voit un peu trop régulièrement dans les grands matchs depuis les saisons. Aujourd'hui, tu n'encaisses pas de but, trop de buts finalement, parce que finalement, à la fin de la deuxième mi-temps, à la fin de la première mi-temps, tu peux même perdre 2-0. Et Mateus, voilà. Après, tu as aussi un Mateus en Ligue des Champions et un Mateus en championnat cette année. Parce que cette année, Mateus en championnat, c'est, faut le dire, c'est compliqué. Mais oui, tu prends pas ces buts-là, et globalement, l'équipe après a quand même des automatismes offensivement, a quand même de la volonté, a quand même de la motivation, parce que ça reste un très grand match pour eux. Donc, tu rattrapes un peu le coup. Mais tout d'un coup, non, je vois pas une équipe qui a la dérive. Je vois une équipe qui, certes, en championnat, a des difficultés. Et j'attends de voir encore un peu. J'ai envie de laisser encore un peu de marge parce que le mois d'août a été dantesque quand on s'y attendait. Tu joues 7 matchs, tu joues émotionnellement. Cette qualification face au Panathinaikos est importante parce que finalement, tu finis comme ta saison d'avant en plein milieu de la saison d'après et tu n'as pas vraiment de coupure. Tu joues le Morelians en pleine trêve internationale sans beaucoup d'internationaux. Donc j'attends, je laisse encore de la marge pour réellement pour être très véhément sur la performance de l'équipe en championnat. On verra d'ailleurs sur le match parce qu'il y a un grand match finalement ce week-end face à Boavista. Mais je laisse encore un peu de marge, mais sur certains points de détail, je suis d'accord qu'on doit voir une amélioration qu'on ne voit pas encore d'un point de vue collectif et notamment d'un point de vue défensif, je trouve.
La suite pour cette campagne de Ligue des Champions, il y a 5 matchs, rien n'est joué. Forcément, tu fais un mauvais départ, donc tu pars avec un certain retard. On sait que les favoris pour la deuxième place, pour la première deuxième place, c'est le Real Madrid et Naples, même si je suis persuadé qu'encore une fois, avec ce Naples-là, tu avais la possibilité d'aller chercher cette deuxième place. Est-ce que tu y crois encore pour cette deuxième place ou ça semble compliqué? Et surtout, cette troisième place qui se jouera fortement, c'est possible contre Union Berlin, qui ont été, j'ai trouvé défensivement très solide contre les Real, mais dans le jeu, il n'y avait pas beaucoup de choses positives à retenir, et même sur l'ensemble du début de saison, ça reste une équipe qui ne propose pas grand-chose et qui propose des prestations assez, assez incompétentes, et on s'ennuie pas mal sur tous les matchs. Et donc voilà, toi, est-ce que tu y crois encore pour la deuxième place, et ou est-ce que tu es confiant même pour cette troisième place?
L'objectif réaliste, c'est la troisième place, parce que je pense que d'un point de vue compétitif, on n'est pas inférieur ni largement supérieur à Lyon-Berlin. C'est une équipe qui peut nous poser beaucoup de problèmes, parce que défensivement, c'est une des meilleures équipes d'Europe, Alors après, pour sortir en transition, des fois, ça dépend des matchs, et sur ce début de saison, c'est compliqué. Mais défensivement, le 5-3-2 de l'Union Berlin est l'un des plus huilés d'Europe, et avec peut-être celui de Brentford quand il joue certaines grandes équipes en première ligue, peut-être avec celui de l'Inter aussi, toujours un peu avec le même système et toujours avec cette même efficacité défensive, de beaucoup de frustrés par cette organisation défensive. Donc voilà, après, c'est un remake, parce que l'année dernière, on les a battus chez nous, on a perdu chez eux. Donc on verra ce que ça donne. Ils se sont renforcés. Je trouve qu'on s'est renforcé aussi, peut-être pas en défense centrale, et on pourra peut-être en parler un tout petit peu après. Mais voilà, l'objectif réaliste, c'est la troisième place. La deuxième place, je pense que ça va être compliqué. Et le truc aussi pour cette troisième place, c'est que le petit point que tu peux prendre face à Naples aujourd'hui, que l'Union ne prend pas face au Real Madrid, que c'est le genre de truc qui peut faire un peu peut-être la différence à la fin. Et je pense que l'Union peut gratter un match face à Naples ou face au Real à domicile. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça peut aussi se jouer là. Donc, le match de ce soir non obtenu à la 88e, mais quand même assez rageant aussi pour cette quête de troisième place.
On va faire revenir un peu sur les prestations individuelles avant de passer au match de Benfica. Bon, vous l'aurez compris, au niveau des têtes, on a Al-Mousra qui tombe tout en haut, Diallo un peu moins, et aussi Al-Belouiz qui fait aussi un gros match, je trouve, dans tout ce qui est dos au jeu au but et dans la compréhension des espaces et dans le jeu, qui a été vraiment excellent, comme à sa d'habitude. Dans les flops, je pense qu'il y en a un, on peut en parler, on a déjà un peu parlé en préambule de cette émission et en tout début, c'est José Fonte qui a l'image de son début de saison, même s'il a fait un ou deux bons matchs là récemment, notamment contre le Panathinaikos au match retour, mais qui dans son ensemble fait quand même un début de saison exécrable, qui on voit notamment sur ce genre de match contre Naples, contre Osimhen. N'a plus du tout les jambes ni le niveau pour ce genre de compétition. On l'aime beaucoup, c'est un super joueur, mais je pense que là aujourd'hui il y a des limites, et si vraiment Arthur Georges continue à insister sur lui, j'ai peur que ça va à sa perte, parce qu'il fait quand même perdre en ce moment pas mal de points, et là la défaite aujourd'hui elle est clairement pour lui, parce qu'un joueur de cette trempe, de cette espérance, ne peut pas faire une relance comme ça sur le côté demi-espace à Osimhen, et ça fait but derrière.
Oui, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter. C'est vrai que le match sur retour face au Pana est bon. Le match sur Sporting est bon selon moi, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup étonné, parce que tu joues quand même assez haut sur une grande partie du match. Mais on savait que c'était un risque pour moi au début de saison. C'était même encore plus un risque, parce que même par rapport à sa dernière saison au LOSC, l'année dernière, il joue quand même très peu de matchs sans Bafodaïa qui était posé dans l'endroit.
Il joue pas les gros matchs, en tout cas.
Il y a des gros matchs qui ratent. Et globalement, dans une défense à deux aujourd'hui, c'est beaucoup trop compliqué. Parce que Victor Gomez n'est pas Bafodaïa qui était dans le profil, dans le sens où c'est un joueur qui... C'est un latéral droit qui attaque, qui apporte de la profondeur, qui apporte du jeu offensif, et qui est d'ailleurs beaucoup plus à l'aise avec le ballon que sans le ballon. Mais donc c'est pour ça que je pense que c'est un énorme risque de partir sur un Fonte à 40 ans sans potentiellement une construction à 3, c'est-à-dire une ligne défensive de 2-3, et encore aujourd'hui je pense que voilà, il a même dans le jeu aérien il a même pas existé en fait. Moi je pensais que forcément il allait avoir des difficultés face au Osimhen, mais je pensais pas qu'il allait être autant surpassé par un joueur qu'il connaît en plus, parce qu'ils ont joué ensemble à Lille. Donc, je pense que très rapidement, il va falloir qu'Arthur Georges enlève un peu cette côté un peu de... Enfin, après, c'est à lui de voir, hein, mais il y a un peu comme la République des statues. Brouma marque ce but, merci, mais globalement, Brouma, il ne peut pas faire tout le match aujourd'hui, je pense. Enfin, de mon point de vue, il fait un match qui est 2-3 fois inférieur à Alvaro Diallo, et c'est Diallo qui sort, et c'est pas Brouma sur cette rencontre. Et ça symbolise un peu ce que fait ça symbolise un peu ce côté un peu de statut qui prédomine. Quand tu vois l'entrée de Serdar Saçić au match retour face au Panathinaikos, c'est un joueur qui aurait pu qui est plus prêt selon moi pour le haut niveau et pour ce genre de rencontre, notamment où t'as de l'espace à défendre, t'as beaucoup de duels, t'as même à la relance, c'est un joueur qui te fera beaucoup de bien. Donc je pense que court terme, il va falloir changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut être Fonte hors de la feuille. Hein. Mais si tu ne changes pas soit lui, soit radicalement ton modèle défensif, je ne vois pas trop comment, c'est-à-dire construire à trois, comment ça, tu changerais beaucoup de choses d'un point de vue de ton modèle. Je pense qu'à terme, il faut changer. Oui, il va falloir changer parce que ça devient compliqué. Même face au Falien, c'est compliqué qu'il y a un problème au Portugal. Donc, il va falloir changer ça assez rapidement. Et pour le commentaire de M. Divadom, le Sporting Club de Braga joue en Ligue des Champions tous les 11 ans. S'il te plaît, on va faire 25 minutes et on va aller faire bien les 25 minutes.
J'allais y revenir. Important de rester au club, s'il te plaît. Si t'es pas content.
Surtout si tu veux parler de Salzbourg, on peut parler de Salzbourg et de
grand match intéressant. Il n'y a pas de Portugal. Donc, s'il te plaît, respecte un peu les autres clubs. Si tu veux, tu peux quitter, tu reviendras demain, tu écouteras le replay. Mais
mais timestamp en plus.
Hein. Comme quand on faisait Braga et Benfica, important de respecter ça. Tu représentes ce qui est le plus mauvais au Portugal, malheureusement, le clubisme. Donc, s'il te plaît, respecte ça. Et encore une fois, si tu n'es pas content, on ne te retient pas. Mais c'est important de respecter les autres clubs, s'il te plaît. Ce serait cool de ta part. Mathieu, on va continuer justement encore. Et après, on reviendra sur Benfica. On fera 30 minutes, 30 minutes. C'est comme ça. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter sur ce match-là ou sur le début de saison de Braga? Et ensuite, on laissera la parole à nos amis Benfiquistes.
Je réfléchis un peu, mais globalement, je suis un peu déçu du résultat quand même. C'est dur. J'aurais préféré perdre 1-0 et avec ce 1-0 et être un peu frustré, mais me dire que l'équipe a fait un bon match, mais et a montré de très bons indices de performance. Et voilà. Et je pense malgré tout. Pardon.
Prochain match. Contre qui?
C'est beau. C'est en Ligue des Champions, c'est face à l'Union Berlin.
Là-bas.
Et nous en championnat, c'est Boavista.
Ok.
Voilà. Je suis pas totalement inquiet. Et voilà, il y a de la qualité dans l'effectif. Aujourd'hui, ils rentrent pas tout le temps. Et finalement, Rodrigo Salazar fait une bonne entrée, fait cette passe décisive. Ça montre aussi que voilà, que t'as un Salazar qui peut apporter, t'as un Banza qui, je trouve aussi, dans les duels, a été encore important dans son entrée, que t'as, voilà, que Pizzi a failli délivrer tout le monde, et je trouve que Pizzi devrait jouer un peu plus, je trouve, et c'est moi qui dis ça, hein, donc c'est dire à quel point je pense que Pizzi devrait jouer un peu plus, parce que son début de saison était bon, il y a eu des matchs où c'était un peu moins bien, mais globalement, toute l'équipe a eu des matchs un peu moins bien, et il y a des joueurs qui sont et qui ont un profil en plus qui peut faire du bien dans cette conservation, dans cette capacité à identifier les temps de jeu, à savoir quand accélérer, quand temporiser. Et globalement, je trouve qu'un Pizzi devrait en jouer un peu plus et aurait pu entrer un peu plus tôt dans cette rencontre pour démontrer un peu ce que cette équipe est capable de faire dans le dernier tiers. Et Pizzi l'incarne aussi un peu, c'est mettre l'équipe adverse vraiment dans son camp. Et arriver à avoir avec Horta, avec Bruma, combiné, et arriver à être ce décalage et ce déséquilibre par des combinaisons, avec Abel Ruiz notamment. Et je trouve que voilà, si tu prends Diallo, c'est pas que. En fait, il faudrait mettre soit Diallo, soit Bruma dans certains moments, et surtout en championnat. Et là, je trouve que Pizzi voilà, devrait jouer un petit peu plus. Parce que là, vraiment, je trouve qu'il a fait du bien sur son entrée, et il a fait nous délivrer avec ce but à la fin.
Oui, c'est vrai que tout dépend des matchs aussi. Forcément, quand. Sur ce genre de match contre Napoli ou qui est une équipe qui défend haut, qui laisse de l'espace dans son dos, etc., c'est intéressant d'avoir Diallo. Maintenant, c'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu as compté bloc bas, avoir un Pizzi ou même un Salazar dans les demi-espaces, ça peut être intéressant. Et juste pour finir, pour compléter un peu tout ce qu'on vient de dire, la prestation de Ricardo Horta, personnellement, j'en attendais un peu plus, étant donné que c'est quand même une légende de ce club. Et on l'a vu notamment sur sa dernière occasion. J'en suis persuadé que ce match-là contre Morelens, un samedi à 17h, il te la met, lucarne, pied gauche. Et là, tu sens que là, après, il y a la fatigue, il y a le manque de lucidité, mais normalement, ce genre d'occasion, vu comment il est tellement fort dans la surface, il te la met et ça peut être regrettable.
Oui, je suis d'accord avec toi sur Horta. Je ne trouve pas qu'il fait un mauvais match, parce que certains moments, quand il contrôle et quand il distribue, quand il fait avancer le jeu, il le fait très bien. Il prend les bonnes décisions, mais je suis d'accord que même cette action-là à la fin et même la frappe qui dévisse alors qu'il est plein axe, tu vois, c'est des exactions que lui, dans d'autres matchs, ne rate pas. On va dire que c'est le premier match, mais globalement, c'est peut-être lui, dans les top joueurs de l'équipe, qui a été un peu en dessous que de d'habitude, parce que dans cette hiérarchie-là, moi, je mets encore Mateus et Al Mousrati dans le top du top de cette équipe, et les deux ont été largement au niveau de Ligue des Champions. On peut parler de Mateus aussi, qui a été, en tout cas sur le début de rencontre, a été très très important pour ne pas prendre ce but au bout de 5 minutes.
Voilà, je pense qu'on a été complet. 30 minutes, pile poil. Donc voilà, c'est le timing. Donc voilà, pour rappel, bah, défaite de Braga contre Naples, 2 buts à 1. Et du coup, bah, il faudra gagner impérativement contre l'Union Berlin là, dans 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, là-bas. Donc il faudra impérativement gagner si on veut espérer, si Braga veut espérer continuer son parcours européen. On va passer à Benfica.
Je prépare comme Prince Weasel les popcorn. Là, je suis noté.
Pas obligé. Je sais bien.
Je ferme le micro.
Non, bah, pour, bah, les gars, en termes de match, franchement, gros en termes de match à part des deux équipes, ça allait d'un but à l'autre. Vraiment, personnellement, je me suis régalé. C'était vraiment très, très beau à voir, de vraiment deux belles équipes. Et tu as ce tournant déjà, le premier tournant qui est le penalty. La faute de Trubin, pour moi, il n'y a pas penalty, je ne la comprends pas trop. Bon, voilà, après, je n'aime pas parler de l'arbitrage, mais pour moi, c'est sévère. Mais penalty loupé. Et juste derrière, ensuite, tu as la grosse occasion, le poteau de João Mario. Et ensuite, tu as le tournant du match qui est cette main, ce mauvais réflexe d'Otto Silva, mais surtout cette mauvaise passe d'Alexander Ba. Et je pense qu'on va ouvrir un peu le dossier sur lui parce que je veux bien être gentil, mais ça fait un an quand même qu'il nous livre des prestations assez ternes. Alors, au début, on était patient, c'était l'adaptation. Mais là, ça devient de plus en plus compliqué. Et ensuite, bah, ce carton rouge d'Antonio Silva et ce penalty. Et là, tu sais qu'à 1-0, où personnellement, moi, j'ai décalé parce que je savais pertinemment que Benfica, même s'ils ont ensuite, j'ai pu comprendre qu'ils avaient fait une belle prestation quand même à 10 contre 11, mais que cette équipe n'allait pas forcément revenir et gagner ce match. Donc, les gars, je vous laisse. Dany, pour ton retour, je te laisse commencer pour parler de cette prestation de ton équipe et aussi globalement de ce début de saison qui reste bon, mais on peut en s'attendre plus de cette équipe, de ce club, surtout au vu du mercato.
Sur le match d'aujourd'hui, peut-être commencer par la composition, où il n'y a pas réellement de surprise. Non, il n'y en a pas réellement. Le seul truc, c'est que ça va. Moi, je trouve que ça va un peu à l'encontre de ce qu'a dit Schmidt durant plusieurs semaines, où il prenait le fait qu'il voulait un effectif qui soit assez complet, qui puisse se reposer sur une vingtaine de joueurs et non pas sur une dizaine. Du moins, il a fort sous-entendu pour la dizaine. Du coup, je ne m'attendais pas forcément, voilà, je m'attendais à ce 11-là, mais ce qui me gêne, c'est le match de Vizela, où finalement, on n'a aucun changement jusqu'à la 80e, enfin, on n'en fait qu'un seul, et où tu as un Otamendi et un Di Maria qui enchaînent match en Bolivie il y a une semaine, Vizela, et encore là, un match avec des champions, ce qui fait que Di Maria, bah, comme d'habitude, là, à la 60e, il était cramé, et encore plus avec un match où on est à 10. Donc, moi, c'était plus le fait que j'ai un peu peur des prochaines semaines, dans le sens où si on n'a pas une réelle rotation à certains postes, je pense notamment pour Neres, pour Morato, c'est bon parce qu'il a une rotation forcée aujourd'hui. Mais pour Neres, ça risque d'être un peu plus bizarre, je pense. L'année dernière, c'était discutable dans le sens où il n'avait pas de solution. Il avait Gil Dias et Diogo Gonçalves en sortie de banc. J'entends que ça soit un peu limité. Il y en a un qui est en Pologne aujourd'hui. Il y en a un autre qui a marqué aujourd'hui avec des champions, mais Danemark. Mais outre ça, aujourd'hui, quand tu as par exemple un numéro 9 qui t'a coûté 25 millions et qui n'est toujours pas titulaire, j'entends qu'il faut un temps d'adaptation, etc. Mais quand tu as pris à peu près un mois à faire ta pré-saison avec Gonzalo Ramos, que tu le vends à l'entrée d'un des plus gros matchs du début de saison, et que tu recrutes au même moment un neuf avec la sensation qu'on a anticipé la chose et on sait ce qu'on fait, et que sur les premières apparitions, honnêtement, c'est très mauvais. Donc j'attends de voir, hein, ça se trouve, je connais pas bien le joueur, c'est-à-dire que j'avais déjà vu ce qu'il avait fait à Bâle, j'ai pas suivi ce qu'il a fait à la Fiorentina, mais ils l'ont libéré assez facilement, au vu de la somme. Mais en tout cas, je m'attendais à autre chose. Surtout quand aujourd'hui, en sortie de banc, c'est Casper et c'est pas Arthur Cabral. Voilà pour la compo. Après, sur le match, je vais peut-être laisser d'abord Philippe peut-être en parler et après rebondir.
Phil, vas-y, je te...
Plus
d'envie, monsieur.
Hein?
Un peu plus d'envie.
Juste pour revenir vite fait sur Cabral, c'est surtout que c'est pas du tout le même profil, quoi. C'est-à-dire que Bouza, c'est un attaquant de pressing. À la limite, Tengsten, ça pourrait être un truc qui se rapproche un peu plus de Moussa dans ce profil-là de premier défenseur. Mais Cabral, c'est pas ça. C'est un mec de surface. C'est un mec. Donc, soit l'envie, c'était d'avoir un profil complètement différent Et à ce moment-là, bon, ça peut s'entendre. Mais du coup, bah, le garçon, il arrive, mais on dirait qu'il a trois picagnes en trop. Il a 15 kilos en trop, il ne marche pas. Enfin, même courir, c'est encore plus compliqué. Donc ouais, là c'est vraiment un souci. Après, je partage l'avis de Dani sur le fait que aujourd'hui, c'est compliqué de commencer un match en mettant Di Maria dans le banc, en mettant un mec comme Kökçü dans le banc, par exemple, parce que j'aurais voulu voir Florentino débuter, surtout quand tu connais un peu l'équipe d'en face, quand tu sais que tu as Luca Gourna qui est un très très bon joueur, l'ancien Stéphanois. Donc j'aurais aimé avoir Florentino aujourd'hui, même pas de rentrer. C'est mieux d'avoir le David Beckham, que dis-je, le Zinedine Zidane de chez nous. J'ai pas compris pourquoi il est rentré. Alors certes, Kökçü faisait pas un bon match, mais en fait il nous faudrait deux joueurs neufs, quoi, pour un peu équilibrer.
En fait, ça semblait ça coulait de source, du sens où tu joues à 10 contre 11, tu as des énormes espaces et tu sais que Florentino il court pour deux, que c'est un mec qui aime défendre dans les grands espaces, qui est vraiment une tentacule, etc. Je comprends même pas pourquoi il rentre pas à la mi-temps, en fait. Tu vois, genre quand tu te vois les boulevards que tu prends au milieu de terrain, pourquoi tu fais ce changement là, ça reste incompréhensible.
Non, mais déjà, tu sais que c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, qui a un pressing, un contre-pressing qui est assez. Enfin, c'est leur marque de fabrique. Ils ont des flèches généralement devant, ça envoie des ballons. Tu savais que ça allait partir dans tous les sens, comme ça a été le cas.
Mais à la limite, que tu mettes Joao Neves et Kökçü au début du match, justement, pour surpasser ce contre-pressing, parce que c'est des joueurs qui sont dans la situation, je peux le comprendre. Mais après le carton rouge, pour moi, quand tu voyais. Parce qu'après, j'ai regardé un peu entre temps, la mi-temps notamment, quand les espaces qu'il y avait. Ça demandait Florentino, tout simplement, parce qu'il y avait des boulevards que Kökçü et Neves n'avaient pas à combler, tout simplement, par leur type de jeu, par leur volume de jeu, etc.
Même si Neves... à la mi-temps, quoi. À la mi-temps, ça se voit qu'on a besoin de Florentino. Et puis, d'ailleurs, les changements... Le premier changement, c'est l'entrée de Sekou Koyata, qui va très vite aussi. Et tu comprends que leur but, c'est vraiment d'essayer d'être solide derrière et de contrer et d'attendre... d'attendre une brèche pour pouvoir envoyer en profondeur. Là où je pense que Florentino aurait été très important pour gratter beaucoup de ballons, on l'a même pas vu sur le terrain aujourd'hui, on n'a même pas pu fouler la pelouse. On a même eu droit à Thiago Veiga, mais pas de Florentino. Donc malheureusement, voilà, ça c'est les Schmitt, les choix de Schmitt. Pas facile, ça. Donc... Faut malheureusement respecter, mais il y a un moment où monsieur, on va commencer à prendre des insultes en allemand si c'est comme ça, hein, parce que c'est après le début de match, il est, enfin, tu le joues 10 fois le match, t'as jamais un début de match comme ça.
Je sais pas si je peux revenir sur ce que tu dis, mais disons que vraiment des fois on a ces discussions là entre nous, et je sais qu'avec c'est pas tout le temps d'accord, mais vraiment il y a des matchs, c'est Benfica, c'est à dire que je peux pas te donner un match plus Benfica que celui-ci, genre tu vois, quand après le match t'as la stat, Benfica est la première équipe dans l'histoire à subir deux pénaltys dans le même match avec un carton rouge à la prime, etc. Enfin, je sais plus c'était quoi la stat, mais ça me surprend même pas. On a vraiment, si genre il y avait un bingo comme on le faisait un peu avec Vira quand il y avait des conférences, enfin des interviews, des phrases qu'il allait dire, là c'était vraiment un bingo de un match de Benfica où tout se passe mal. Vraiment, ça m'a rappelé le match contre Bâle où on prend 5-0, expulsion, un défenseur qui est ultra lent, parce que j'ai pas parlé du match de Otamendi, mais la profondeur, mon Dieu, quand t'as Bâle à côté de toi et un trou au milieu de terrain, le boulevard, forcément il se fait manger les fesses. Et ça, c'était déjà le cas sur certains matchs déjà à la maison. Et quand t'as, en plus, tu as un Troubine qui n'est pas en confiance et qui a le syndrome de d'Odysseas, qui est de ne pas sortir de ses cages, c'est pas évident non plus. Mais voilà, c'était vraiment un match type Benfica. C'était un match où, dès lors qu'il y a pénalty sur la faute de Troubine, dans le sens où, pour moi, il tente de jouer la balle, mais il loupe sa sortie. Donc même s'il est dans sa zone, pour moi, le geste n'est pas maîtrisé, il porte atteinte au joueur, et donc du coup, le pénalty ne me choque pas. À l'inverse, j'aurais aimé que ça soit sifflé, donc peut-être que ça ne l'aurait pas été, mais en tout cas, pour moi, ça ne m'a pas choqué. Mais dès lors qu'il y a ce penalty-là, tu te dis ok, ça a commencé bien parce que ça allait d'un but à l'autre, comme tu disais. En fait, là, en face de nous, il y avait une équipe qui avait une moyenne d'âge de 21 ans.
Et j'avais l'impression que c'était le plus jeune de l'histoire.
Et en plus, et j'avais l'impression qu'ils avaient beaucoup plus de maturité dans leur jeu que nous. Je nous sentais pas serein, pas en maîtrise.
On se contrôle, je suis pas sûr.
Bah en fait, on se contrôle sur le début du match, même avant la main d'Antosiba, il y a déjà des signaux qui me disent on n'est pas dedans en fait. On a une phase ou deux où on peut allumer comme ils peuvent allumer. Mais en fait, on est à domicile. C'est très rare qu'on perde à domicile en Ligue des Champions, genre comme ça. L'année dernière, on perd contre l'Inter et c'est tout. Généralement, chez nous, c'est les matchs qu'on gère le plus parce qu'avant, c'était plus à l'extérieur, on n'arrivait jamais à gagner. C'était assez rare. Et donc, du coup, de se faire maîtriser comme ça par une équipe, désolé, autrichienne. Après, je sais que Salzbourg est devenu une référence et que c'est très bien ficelé avec Leipzig, etc. Mais je veux dire, t'as pas eu peur du PSG l'année dernière. Du moins, tu as montré que tu n'avais pas peur. Tu n'as pas eu peur de la Juventus non plus. Tu t'es fait un peu peur contre le Maccabi sur le premier match. Généralement, tu me démontres une image où tu es costaud à la maison. Et là, tu sentais que c'était un peu le match où tu n'allais pas être costaud. Où en fait, il leur suffisait que d'un tir pour marquer. Et je ne sais pas si tu as eu le même sentiment cet après-midi avec la Youth League, mais c'était un peu ça aussi. Tu vois,
ouais, c'est l'image en fait, du début de saison, je trouve. C'est vraiment aujourd'hui, ça reflète le début de saison de Benfica qui n'est pas.
Ouais, Boavista. Voilà. Boavista. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est un match où tu es facile, tu peux tuer le match, tu prends un rouge bête. Un rouge qui est bête, parce que c'est même pas des rouges où tu peux discuter, parce que j'ai vu que oui, Antosiva n'a pas fait exprès. Non, écoutez, Antosiva, il y a un mec derrière, il y a but. Réflexe, mais c'est rouge, tu vois. Moi, pour moi, c'est rouge. Je suis obligé de mettre rouge. Moi, je le vois comme un réflexe en mode j'aime mon club, le tout pour le tout, tu vois. Il peut se cacher derrière le fait qu'il pense qu'il a été sorti et tout, mais son mouvement de main n'est pas naturel. C'est pas naturel du tout. Donc voilà, moi, je n'en veux pas Antosiva dans le sens où. Je ne vais pas dire que ça arrive parce que c'est très rare que ça arrive, mais on va dire que c'est pas sur lui que je vais jeter la pierre, oui. Certainement pas parce que c'est.
À son niveau habituel par rapport à tout ce qu'il fait depuis un an. Il y a eu des erreurs de concentration contre le PSG, etc.
Tu vois, l'année dernière, celle du PSG, pour moi, voilà, ça arrive, etc. Là, pour le coup, c'est un tout. Tu te dis, bon, ça ne va pas être notre soir et on va manger notre caca. Derrière, on se mange le penalty et après, on avait plutôt une bonne réaction à 10 contre 11. Mais en fait, là, on ressurgisse un peu les problèmes qu'on pointe depuis le début de saison, c'est-à-dire Moussa est un très bon joueur, j'en doute pas, et c'est un très très bon joueur. Mais selon moi, pour moi, il y a un plafond. En fait. Il y a un plafond. Pour moi, ça sera un très bon joueur pour Benfica, mais il n'aura pas le niveau Ligue des Champions. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Intéressant de ce que j'ai vu.
Non, il a été.
Il a porté un poids devant, c'est quasiment ça. Ouais. J'ai vu déborder des adversaires. Donc
sur le côté, etc. Je l'ai trouvé bon, mais pour que je le trouve très bon dans un match des champions, en fait, il faut qu'il me plante un but. Sur les occasions qu'il a eu, il doit marquer. Il est neuf. Tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu as un poste qui est référent, un poste référence, et pour l'instant, on est bientôt en octobre, notre neuf, il a deux buts. Et c'est pas assez. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas dire aujourd'hui que Moussa est indiscutable. L'année dernière, on savait que Ramos était indiscutable, par exemple, à ce poste-là. On savait que Moussa, toute la saison, allait manger son caca et prendre quelques minutes.
Il était indiscutable par rapport à son statut de portugais forme externe, mais pas par rapport à son niveau de jeu, je trouve.
Je pense pas, tu vois. Pour moi, non, parce que tu vois, quand il t'envoie Eric Araújo, il te le fait pas jouer quasiment pendant 6 mois et après, il te le dégage. Pour moi, il a pas vraiment de statut. Il a des préférences, par contre. Pour moi, quand il a un joueur où il se dit « c'est bon, c'est fait, c'est lui », c'est très dur de le sortir. Là, pour lui, là par exemple, chez Quinho, il va à la guerre avec lui. Si à la fin de la saison, il part libre de son contrat, ok, mais il partira à la guerre avec lui. Il va manger ses 20 minutes
de comme match. Comme les trois devant l'année dernière.
Mais je trouve Moussa plus intéressant dans le jeu que Gonçalo Ramos sur certaines
parties. Je suis d'accord aussi. Le truc, c'est qu'il y a un moment donné où moi, je trouve que le profil est très bon, mais qu'en termes de niveau vraiment intrinsèque, pour moi, il y a un plafond. Et pour moi, le plafond, il va se voir sur des matchs de Ligue des Champions. Il ne va pas se voir contre Vizela. Il ne va pas se voir sur. Pour moi, au Portugal, il met sa quinzaine de buts et il peut se faire plaisir. Maintenant, c'est un peu. Tu vois, tu as un peu ce sentiment-là.
Pour toi, il est plus proche de Jiménez que de Darwin, genre.
c'est pas les meilleurs niveau. Enfin, les deux sont voilà, mais oui voilà, mais même et même Jiménez pour moi est devant et devant Moussa, ouais pour moi est devant en termes de niveau intrinsèque. Je parle pas de moi, le profil est très bien, tu vois.
Oui, oui, non, je comprends.
Moussa, c'est pas forcément un neuf qui va rentrer dans toutes les équipes, tu vois. Enfin, c'est un neuf très généreux qui joue pour l'équipe. Mais tu vois, peut-être qu'il faut, enfin, je sais pas, peut-être qu'il serait plus à l'aise avec un autre neuf à côté de lui, j'en sais rien, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas, je pense pas qu'on soit tous là à se dire, bon, à la fin de la saison, c'est sûr, on fait Moussa avec, enfin, c'est sûr qu'on a Moussa toute la saison titulaire. On sait pas. Pour moi, le neuf, tu vois, t'as toujours dans cette pensée de dire, bah, c'est normal, t'as mis 25 millions sur un autre neuf. Tu vois, tu dis que ça doit être lui, tu vois.
Moi, si je peux intervenir, moi, tu vois, sur Moussa, je pense qu'il y a un peu le côté biais du fait que pour lui, tu as dépensé 5 millions et pas 20, c'est et qu'il vient de Boavista et pas de la Fiorentina. Et je pense que ça joue naturellement et ça joue beaucoup au Portugal. Ce fait inconscient que, à moins d'être un joueur vraiment excellentissime, et je peux en sortir un qui peut être, par exemple, Ivan Jaime du côté de Porto, qui fait vraiment une saison folle l'année dernière avec Famalicão et qui donne cette impression de devoir être d'ailleurs plus jeune et tout ce qu'on veut, et entre guillemets espagnol, technique et tout, ça plaît. Le profil, d'où Moussa vient et le prix que tu as payé, qui est finalement un prix assez lambda, je trouve que malgré tout, ça, j'ai l'impression que ça joue quand même. Parce que globalement, dans le jeu, il y a très peu d'attaquants au Portugal qui font ce qu'ils capable de faire.
On en revient au même. C'est-à-dire que là, tu me parles à l'échelle du Portugal. Et moi, à l'échelle du Portugal, pour moi, c'est un très grand attaquant. Mais tu vois, par exemple, je te prends l'image à l'époque d'un Lima. Lima, à l'époque, il vient de Braga. Il vient pas pour une grosse somme, mais pour moi, Lima avait un niveau où, en Europe, il pouvait faire ses prestations. Il lui fallait pas être peut-être 5 frappes pour marquer.
En Ligue des Champions, tu as des énormes prestations de Lima avec Benfica.
Non, mais en Europa League, dans les derniers carrés, dans les gros matchs.
Oui.
Mais contre des grosses équipes, à cette époque-là, on jouait moins la Ligue des Champions aussi. Quoi.
Mais c'est ce que je veux dire, parce qu'à ce moment-là, nos parcours en Ligue des Champions, c'est général. C'est-à-dire que tu n'as pas une équipe qui. Aujourd'hui, tu as une équipe qui, pour moi, en Ligue des Champions, doit aller 8e quart de finale à chaque fois. Enfin, en tout cas, avec l'effectif qu'on a. Avec aucune blessure, etc. Pour moi, tu es obligé de sortir des coups. Tu vois, donc, et pour moi, ça veut dire que nos neufs vont être bien servis. Autour de toi, je suis désolé, tu as de la qualité. Enfin, peut-être pas par Rafa dans les derniers mètres, parce que bon, c'est pas le meilleur à ce niveau-là. Mais je veux dire, quand t'as un Di Maria, quand t'as un Jean Mario, quand t'as un Coxou, des occasions tu vas en avoir. Pour moi, Moussa aujourd'hui, il doit en mettre un. Mais si c'était que occasionnel, pour moi, c'est pas le premier match contre Amado. Si j'ai pas de bêtises, c'est à peu près la même chose. Il fait un match qui est plutôt bon, mais il met pas son but. Et donc ça va. J'ai peur que ça soit assez répétitif, que il faille à chaque fois 3-4 occasions pour marquer. Et j'ai toujours, alors j'ai eu ce sentiment là quand il était titulaire, mais à contrario, quand il sortait du banc, j'ai pas eu ce sentiment là. J'ai senti qu'il lui fallait peu de ballons pour faire le boulot. Et donc, des fois, tu as des joueurs comme ça où peut-être que dans le statut, ils sont meilleurs peut-être en sortie de banc et dans la rotation qu'en étant titulaire indiscutable. Et c'est là où moi, pour moi, je me dis que Moussa, ça va peut-être être ce cadre là. Ça veut pas dire qu'il est pas bon pour Benfica, ça veut juste dire que lui mettre ce statut de tuer le 9 de Benfica, c'est peut-être trop gros pour lui. Tu es le 9 ou vraiment, si tu mets pas, si on va te mettre toute la pression dessus, parce que l'année dernière, la pression au final, c'était sur Ramos. Si tu passais à Benfica, la réalité, c'est que si tu passes à côté de 2-3 matchs, bah, tu es tout de suite remis en question, que tu sois à Coxou, ou Jean Neves, ou Odysseas. Hein, mais c'est le principe.
Du temps, parce que je pense que je joue avec aussi une épée de Damoclès où tu sais qu'il y a 25 millions derrière qui t'attendent, et forcément,
ouais,
tu as la pression. Mais moi, je pense qu'il a tout à fait le niveau de Benfica, même pour la Ligue des Champions, parce qu'encore ce soir, justement, je l'attendais au tournant ce soir parce que c'est un match quand même Ligue des Champions contre une belle équipe. Et je l'ai trouvé vraiment peut-être l'élément offensif.
Il fait un bon match. Hein.
Il s'est créé des occasions tout seul. Alors oui, je comprends sur le sens que tu veux qu'il marque. Mais le gardien fait quand même deux belles arrêts. En plus, il y a des angles de frappe compliqués à mettre, tu vois.
Non, la première très dure. La deuxième, pour moi, il doit la mettre.
Ouais, je sais pas.
Deuxième, mais
quand il décale côté droit, il y a la première où c'est vraiment serré. Et il y a la deuxième où, pour moi, il tire sur le gardien, tu vois. Et c'est pour moi, c'est son petit péché, c'est qu'il n'est pas fin devant les buts. Il n'a pas cette finesse-là. Mais, encore une fois, il ne fait pas un mauvais match ce soir. Mmh. C'est pas à cause de lui qu'on perd. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu alignes tous les trucs sur la soirée, bah, tu avais tous les ingrédients pour passer à côté de ton match. Vraiment tout. Et tu passes sur. Voilà, parce que Moussa, c'est loin d'être le problème majeur. Hein. Le problème majeur, en fait, pour moi, c'est un constat sur ton mercato. Parce que. Ouais, non, mais oui, c'est ça. Hein. Mais pas que, mais dans le sens où c'est la preuve, c'est, en fait, c'est ton mercato, en fait. C'est ton mercato sur les latéraux. Parce qu'en fait, c'est simple. Tu savais que Grimaldo partait. Tu as passé un bon mois sur le CAC Arquez, où finalement, bah, niveau salarial et avec l'agent, avec son père, c'était impossible. Tu vas chercher Jurasek, qui se blesse malheureusement. Donc sur ça, au pire des cas, bon, bah, c'est pas très grave. C'est pas très grave si ton backup y suit. Mais il s'avère que le backup, il fait titulaire à Porto, puis après, il se fait dépasser par Orsnes pendant un mois. Ça fait un an qu'il est dans l'effectif. On ne savait pas déjà que Ristich n'était pas fait pour Benfica. Enfin, du moins, n'était pas fait pour Schmidt. C'est-à-dire qu'on a eu un an, il a eu Ristich un an pour finalement le dégager le 31 août. Et c'est là où, pour moi, il y a un problème au niveau de l'anticipation, c'est que dans ton backup à gauche, c'est pas bon. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ce poste-là, où c'était ton poste référence l'année dernière, parce que moi, personnellement, là, vous savez très bien le sentiment que j'ai envers Grimaldo, c'est un bon joueur, mais j'ai, voilà, ce qui s'est passé au niveau de son histoire unifiée, il y a beaucoup de choses que j'ai pas accepté. Mais c'était une certitude à ce poste-là, du moins, dans, par exemple, sur ce genre de match, je sais qu'il va faire ses matchs, etc. C'est pas un problème. Mais là,
il était fiable.
Oui, il était fiable.
Et t'as un point. Ornette latéral gauche en Ligue des Champions le 20 septembre, quoi. C'est pas normal.
Oui, non, c'est ça. En fait, c'est que t'arrives, t'as un point d'interrogation sur ce poste-là. Tu te dis, bon, bah là, on va. Orsnes, tu le fais en championnat. Bah vas-y, ça va marcher 3-4 matchs. Puis le contre-viseur, il te provoque un pénalty. Qui est pénalty ou non, ça change en fait qu'il l'ait provoqué. Donc, déjà, c'est un premier problème. Et aujourd'hui, c'est même pas à cause de lui, c'est juste que tu dis qu'à gauche, tu démarres avec un mec qui est censé jouer ailier gauche, qui est 6 à la base, qui est 8, qui peut jouer à peu près tous les postes, donc c'est super pour la polyvalence, mais dans un club comme le nôtre, il faut des certitudes à ces postes-là. Et là, à gauche, du coup, tu as un point d'interrogation, et puis tu bascules à droite, et puis là, bah, c'est incroyable parce qu'en fait, tu as Ba, qui, voilà, l'année dernière fait une bonne saison, sans qu'elle soit exceptionnelle ou très bonne, mais je pense qu'il est aidé par le fait que le collectif soit très bon. Et qui soit aussi, qu'on du coup cache certaines de ses lacunes, mais du coup dans les matchs où c'est plus compliqué et où il est plus engagé et mis sous pression dans le pressing comme on l'a vu aujourd'hui, et bah la relance c'est compliqué. J'en ai une touche de balle, c'est compliqué. Venir déborder son vis-à-vis et l'allumer en contre un, bah c'est très compliqué parce qu'il a c'est toujours une passe en arrière, toujours une passe en retrait, même quand il a un boulevard devant lui. La seule fois où aujourd'hui il élimine un joueur, c'est sur le petit pont et il passe, je l'ai vu faire une fois. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, soit il y a une certaine timidité, soit juste il y a un manque parfois de niveau, ou même plutôt global. Et je pense non, que la réponse, elle est sur il y a un manque de concurrence. Tu n'es pas inquiété au quotidien, aux entraînements, par un mec qui pourrait prendre ta place. La personne qui est en concurrence avec toi est quelqu'un qui ne sait absolument pas attaquer ou être du moins productif au niveau offensif.
Le seul point positif que je trouve à bas, et c'est révélateur aussi de son apport offensif quasiment néant, c'est sur les transitions défensives. Je trouve vraiment qu'il revient toujours très bien, il est très rapide. Du coup, c'est vrai que tu peux jouer avec un bloc haut grâce à lui, etc. Il a vraiment des bonnes attitudes défensives. Et grâce à sa vitesse, il peut jouer haut et c'est tout le bloc qui monte, etc. Mais offensivement, c'est le néant, quoi, comme tu viens de dire.
Ouais, mais ça, en fait, ce qui va lui mettre. Voilà, c'est un peu comme Jurasek sur le côté gauche. Encore, je ne le connais pas très bien parce qu'on l'a peu vu. Mais c'est ce côté athlétique, intensité qui le met en avant et du coup qui va rattraper tout le réserve. Mais c'est trop peu, ou du moins si c'est pas trop peu, c'est qu'il faut quelqu'un d'autre pour le confronter en fait. Dans l'idéal, c'était Thiago Santos quand il y avait eu la possibilité, après ça s'est pas fait, on sait pas pourquoi, mais aujourd'hui le problème c'est que t'as un mec qui a coûté 10 millions pour un poste de défenseur central qui est sur le côté droit et qui est sur une zone où littéralement on n'a pas besoin de lui, ni en défenseur central ni à droite. Donc et aujourd'hui encore une fois pour moi ça te fait défaut, ça te fait pas que défaut sur ce match là mais sur plusieurs matchs parce qu'il n'y a pas de réelle concurrence. Et puis sur le match d'aujourd'hui, ça te fait défaut parce que t'as, à côté de Ba, tu as aussi un mec que j'adore, hein, mais qui, pareil, Otamendi, il y a des matchs où moi je trouve cette saison que ça devient de plus en plus compliqué. Où tu sens qu'il peut être des fois dans le dur et à la relance, quand tu tapes Ba et Otamendi du même côté, même l'année dernière, c'était déjà le cas, t'as un risque de conneries. Ou pour moi, tu as un moment où on enchaîne Otamendi qui fait une première connerie et Ba qui fait la deuxième connerie et là, ça coûte un but. Et en fait, à ce niveau-là, tu ne peux pas. Et je l'accepte surtout pas de deux joueurs qui ont Ba déjà une saison avec des champions et Otamendi qui est champion du monde. Ou pour moi, à ce niveau-là, tu ne peux pas. Face à une équipe accessible par rapport au groupe, hein, tu ne peux pas te faire allumer à la maison. Et je ne sais pas si Philippe me rejoint, mais c'est mon sentiment.
Ouais. Bah, le problème, c'est que le vrai backup de Ba, il joue arrière-gauche et que ce n'est pas son poste non plus. Donc... Parce qu'on sait tous que si Ba se pète et que, par exemple, tu as Jurasek ou Bernat de disponible, ce sera plutôt Orsnes que Jean-Victor.
Et... Ça enverra un autre message. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que ce genre de message d'électrochoc qui font qu'après, le joueur se dit bah, « il compte pas sur moi, je me barre ».
Mais tu sais que là, si on a, je suis presque même prêt à parier que Si par exemple Ba n'aurait pas été remis de sa blessure de sélection, on aurait eu un Jean Neves ou un Thiago Veil arrière droit. Hein. Ben, ça m'aurait pas
plus
étonné.
Neves, je pense. Mais et je vais même t'en dire un autre qui pour moi il pourrait le faire. Aujourd'hui, il y a Guedes à 100%. Je suis presque sûr que c'est lui le 9.
Mais par exemple, tu vois, moi il y a peut-être mettre Orjones ou à droite, à gauche, même tu peux mettre un joueur Neves arrière droit. Tout. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus de positionnement dans le football. En vrai, on s'en fout du positionnement.
Oui, c'est l'animation, en fait.
C'est en fait, oui. Il utilise Orjones comme un vrai latéral gauche de largeur qui va jouer comme un latéral gauche, etc. Alors, si tu utilises Orjones comme latéral gauche, mais qui vient se recentrer lors de la construction, de la première phase de construction, etc., ça aurait du sens, tu vois. Tu recentres Orjones, tu mets Neres excentré pour apporter de la largeur, etc. Le problème, c'est que Roger Smith, en fait, il utilise vraiment les postes, leur fonction, quoi. C'est, Orjones joue comme un latéral gauche. Et c'est ça qui est préoccupant. Il est tellement fort, il est tellement tout faire que tu pourrais l'utiliser. Pour recentrer, pour
il vient souvent à l'intérieur, hein, et souvent d'ailleurs il se marche dessus avec Jean Mario, je trouve.
Il vient à l'intérieur quand une fois qu'il a le ballon, mais je veux dire, une sans le ballon, il est tout le temps excentré, quoi.
Oui.
En fait, je vois ce que veut dire Alex. En fait,
ils sont collés à la ligne.
Ce que Alex veut dire, en fait, limite, tu vois l'inverse sur notre animation offensive sur les 30 derniers mètres, où là c'est totalement libre, en fait. Tu vois, c'est où ça va permuter, où Orsnes en fait va venir même couloir droit quand on a le ballon, alors qu'il est latéral gauche. Je l'ai déjà vu faire ça encore sur le dernier match. Par contre, quand on n'a pas le ballon et qu'on est. Bah, c'est vraiment stérile, c'est vraiment fixe. Et c'est là où je me dis, mais il y a un problème. Genre, Orsnes, je l'ai vu demander 1000 fois le ballon à l'opposé. Tu vois, vraiment à le coller à la ligne, etc. J'étais là, il va revenir sur son pied droit, il va rentrer intérieur, il va se faire presser, il va remettre en arrière, et puis on repart sur un cycle, on ressort de derrière. Et donc, c'est fixé,
après revenir sur Kokchou.
Un truc, après ça, c'est une manière de jouer. Et je ne suis pas coach, je ne suis pas en entraînement. Mais sur les deux matchs, et même déjà avec Samu Soares, ben, je ne comprends pas pourquoi notre gardien ne participe pas beaucoup plus à la construction. Je ne comprends pas qu'on ne ressort pas beaucoup plus haut, tu vois. Je trouve que le gardien ne participe pas assez à la sortie de balle. Qu'on vient solliciter, par exemple, quand Ba vient toucher le ballon aussi bas sur le terrain, je me dis, je comprends pas. Genre, tu grilles ta première cartouche et là, tu ressens encore en arrière. Et impossible. Enfin, je sais pas. Surtout
que j'ai un bloc haut en face. Et que en plus, il a montré le. Je sais plus si c'était contre Vizier ou contre Strill. Quand est-ce qu'il commence ?
Strill.
C'est
Samuel ?
Non, regarde.
C'est Vizier.
Et à un moment, il envoie une passe en profondeur pour Orchness. Tu dis, bon, lui, au moins, il sait faire une passe longue, tu vois. Donc, pourquoi ne pas en profiter ? Et aujourd'hui, surtout quand après, au bout d'un moment, Raphaël, après l'expulsion, a été un peu plus dans le demi-espace gauche parce que du coup, il devait être entre l'axe et le côté. Et même Di Maria qui avait des jambes jusqu'à l'heure de jeu. Il n'y a pas eu de jeu long, surtout profiter de la stature de Moussa pour pouvoir envoyer un des deux joueurs rapides dans le dos de la défense. On n'a pas eu ça. Après, aujourd'hui, il n'était pas en confiance. Tu l'as vu, même, il voulait essayer de jouer le plus court possible, histoire de se mettre en confiance. Mais quand tu commences le match, 1 minute 30, tu crées un penalty. Bon, tu as de la chance, ça part au-dessus. Mais, et que derrière, il y a une passe cacahuète. Déjà, il y a la passe en retrait d'Antonio Silva de la tête, qui est une balle galère. Derrière, bas, il lui met une balle, mais n'importe comment.
C'est molle, c'est mou, c'est... C'est vraiment donné pour donner.
Le ballon est contré, il va taper la barre, il tape la main du petit. Enfin, il y a tout pour mal commencer. Et en fait, je pense que les supporters, ils l'ont senti aussi. Ils ont senti que les joueurs étaient nerveux. Tout le monde est du coup nerveux. Je pense que les joueurs, après, ressentent encore plus cette nervosité. Et bah, du coup, ça donne
face à une équipe de moyenne d'âge de 21 ans. Alors que dans ton équipe, tu as deux champions du monde. Moi, sur ça, je suis désolé, mais c'est inadmissible.
Tu as raison. Et ce qui est dérangeant, surtout, c'est que tu vois pas vraiment de progression par rapport à l'année dernière. Surtout que tu avais déjà des messages d'alerte un peu la saison dernière sur la deuxième partie de saison. Où moi, je me suis dit, bon, c'est quand même un entraîneur intelligent, c'est un très bon entraîneur, on va pas lui tirer dessus encore une fois. On n'est pas là pour faire sa descente en enfer ou autre. Mais. Je trouve que c'est toujours le même schéma de jeu, c'est toujours la même tactique, c'est toujours le même schéma de
passe,
c'est toujours la même animation. Et je m'attendais à ce que il se renouvelle un peu plus parce que tu sais très bien, encore une fois, tu avais des messages d'alerte sur la deuxième partie de saison que si tu te renouvelles pas, ça peut être une saison compliquée. Et c'est pour ça, d'où mon tweet avec le Sporting, etc. Je me suis dit, Benfica, attention, top mercato, notamment offensivement, etc. Mais si Roger Smith ne comprend pas qu'il faudra quand même changer quelques trucs sur l'animation offensive et défensive, se réinventer, par exemple, ça peut être compliqué. Et actuellement, le début de saison est en train de montrer que va vite falloir qu'il réagisse, notamment soit par des changements de joueurs, soit par un changement tactique, soit par un changement de d'animation. Mais il va falloir qu'il se réveille un peu, parce que sinon, la saison peut être vite catastrophique dans 2-3 semaines, par exemple, tu vois.
Non, clairement, ça va aller vite. Florentino, ce serait bien.
Non, mais moi, sur ça, tu vois, je suis d'accord. D'ailleurs, on avait parlé, je me souviens qu'on avait parlé avec Ton au stade, où on se disait sur ce genre de match avec des champions, selon l'adversaire, je pensais que naturellement, il allait basculer Tino. C'est-à-dire que moi, je voyais Florentino jouer aujourd'hui. J'étais assez surpris par le bar jeu. Mais outre ça, je me dis, ça va aller vite, parce que là, tu vas pour Timon. Je pense que Boda. Après, je sais pas, parce que la dernière fois, on avait tapé Chavez comme ça et on séchait dessus. Mais si tu reprends confiance et que tu gagnes ton match, ok, tranquille. Après, tu reçois Porto vendredi. Et là, après, tu as l'Inter. Et là, tu peux entrer dans une séquence, une spirale négative, ou alors tu peux rebondir. Non, mais c'est ça. Hein, mais c'est, et on l'avait dit. Et là, on l'avait dit que ça avait été encore la même chose. C'est soit tu rebondis très bien, soit tu rentres dans une mauvaise spirale. Et juste pour revenir sur un truc que tu disais sur Trubin. Moi, tu sens qu'aujourd'hui, le mec était vraiment pas en confiance. Il te fait des trucs où vraiment tu sens que c'est dans la tête. Parce que, désolé, mais c'est pas les gardiens qu'on nous a vendus, c'est pas vraiment les prestats que j'avais vus. Même si on n'avait pas vu 10 000, hein, mais bon. C'était des trucs où tu disais que c'était assez inhabituel, mais par exemple, juste les relances au pied. Le nombre de je pense qu'il envoie 2-3 balles sur les joueurs de Salzbourg, littéralement.
À la fin du match, il faut être une pied gauche, je crois.
Et là, tu te dis, mais ouais, non, genre, pas possible. Mais là où j'ai senti qu'il y avait une certaine pression de sa part, c'est déjà sur le fait que Schmidt a pris du temps à le mettre dans les cages, et maintenant je pense comprendre pourquoi. Après, je pense qu'il a peut-être pas, il a peut-être dû déjà le mettre contre Cyril D'Amado. Mais bref, outre ça, c'est aussi son texte qu'il met sur Instagram après le match, où le mec est.
Il dit qu'il était nerveux.
En fait, c'est bien d'avoir une com où tu dis que tu es content et tout, mais littéralement dans le message, tu sens que le mec est vraiment. Il dit dès que je touche mon premier ballon, ça va. Ou qui se confie, il dit, même si c'est Instagram, c'est des réseaux sociaux, le mec se livre et dit, ouais, dès que je touche mon premier ballon, bah, je me sens mieux, le track était parti. Et là, frère, ton premier ballon, t'envoies un penalty. Si, en fait, il y a 3-4 jours, t'as réussi à ne plus être nerveux grâce à un bon toucher de balle et que t'as pas été très sollicité, ça va. Et si alors, dès ton premier match à domicile, devant 60 000 personnes, t'envoies un penalty, c'est-à-dire que, bon, j'espère que t'es pas fragile mentalement. Enfin, tout le temps, tu vois, mais c'était au vu de son jeune âge et au vu de ce qu'il avait pu dire sur Instagram, pour moi, ça pouvait démontrer que le contexte ne pouvait pas être évident pour lui. Et tout ça, en fait, rajouté avec le cocktail, avec l'expulsion dans ce silo, parce que je pense que ça, on ne sait pas jouer à 10. On a jamais su jouer à 10. J'ai pas un match où à 10, on peut-être. Allez, je crois qu'il y avait un Benfica Porto ou un Benfica Juventus en 2013 où on joue bien à 10. On ne sait pas jouer à 10. On ne sait pas jouer à 10. On n'a jamais su jouer à 10. Ouais, certes, on s'est bien démerdé pendant 30 minutes où voilà, on est bien sorti à 10. Mais on sentait tous que si on plantait pas avant la mi-temps, le match était déjà fini. Et honnêtement, pour moi, le match, au moment de la main d'Antoine, c'est en mode voilà, on jette à la poubelle et on se concentre sur le prochain match.
Surtout, tu as deux solutions. Encore si tu as 0-0 à 10 contre 11. Je pense que tu peux lutter, etc. Mais quand tu prends le rouge plus penalty, tu te dis, vas-y.
Après, on bricole. Le Rafa, il fait son rôle d'ailier horrible.
Tu fais ce qu'il faut, en plus, pour marquer avant la mi-temps. Parce que tu as des occasions. Donc, s'il y a un partout à la mi-temps, c'est pas déconnant. Parce que, en vrai, eux, après, ils n'ont pas fait grand-chose de plus sur la première mi-temps. Après, sur la deuxième, ils ont une action. Encore une fois, tu vois. 8 fois sur 10, peut-être Orsnes, il arrive à prendre le ballon. Là, ils ont un contre.
Mais moi, le problème, il est avant Orsnes, Philippe, pour moi.
C'est la relance de Morato.
C'est plus dans le contre-pressing. Au moment où on perd le ballon, on se jette tous. Et je trouvais que les timings étaient vraiment horribles sur ce match-là. Même Jean Neves, hein, je le kiffe et je fais un bon match. Mais j'ai trouvé que sur ce match-là, il n'a pas récupéré le ballon comme il peut les récupérer d'habitude. Il était souvent en retard. Ça lui a valu 2 tacles. Pour moi, il peut prendre jaune direct. Et au début, ça va, il s'en sort bien. Mais je trouvais que c'était un match où on est vite passé au travers. Et en fait, sur la deuxième mi-temps, tu avais ce truc de se dire, on les voyait, ils étaient rentrés en mode, faut qu'on marque vite. Et c'était vraiment au-delà de marquer vite, c'est que dans les intentions, on jouait hyper haut. Tu avais à un moment donné, sur des occasions, tu avais Koksou, Jean Neves entrée de surface, Di Maria, Orsnes, et finalement, derrière, on était 3. Donc ça partait hyper vite. Eux, ils avaient besoin de rien faire. Ils avaient juste besoin de respecter leur schéma, d'être sérieux défensivement et après d'aller chercher l'occasion. Le but qu'ils mettent, ils respectent leur schéma et ils vont attaquer les ailes. Ça démarre côté droit et ça finit côté gauche. Les mecs, ils ont su ce qu'il fallait faire. Et Orsnes se retrouve dans une position où bah, voilà, il se loupe, mais c'est tellement pas son poste que moi, j'en veux pas. C'est pas sa faute, quoi. Il se retrouve dans une position délicate. Bah, mais encore une fois, c'est une question de préparation.
Au final, t'as plein d'occasions. Je crois qu'il fait 6 arrêts, le gardien. Même le ciseau de Tamendi. Franchement, je sais pas. J'ai pas l'impression non plus que ce soit le plus mauvais match qu'on ait jamais fait parce que j'ai l'impression que.
Mais c'est en fait, c'est global. Tu vois, tout ce qui s'est passé sur 90 minutes, c'est hardcore. Genre, c'est
en mode. Mais non. Oui.
Tu peux pas proposer offensivement ce qu'on a proposé à 10 où c'était très bien et en fait te faire manger sur deux trucs où pour moi c'est un manque de concentration et un manque de gestion émotionnelle. Je saurais pas te dire, mais c'est vraiment deux phases où pour moi tu peux pas passer d'un extrême à un autre où tu t'alignes hyper bien à 10 ou même à 11 où t'envoies. Je crois que c'est Jean-Marie qui met un poteau début de match là. Ouais. Où vraiment tu fais tout ce qu'il faut et deux secondes après tu te chies dessus sur des erreurs individuelles. C'est là où pour moi, en fait, en Ligue des Champions, ça se paye cash. Et on l'a déjà dit, en Ligue des Champions, pour moi, il n'y a pas de petites équipes, dans le sens où tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre aussi. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que sur ce match-là, si t'es arrivé que tu disais Salzbourg que tu allais manger et tu allais remettre un score, c'était pas bon. Et tu as senti qu'on n'était pas dans cet état d'esprit-là. Mais sur les erreurs défensives, désolé, ça te coûte deux matchs. Donc, je préfère me dire ça que de me dire, globalement, on a été vraiment nuls pendant 90 minutes. Parce que là, vraiment, ce qui nous a coûté le match, c'est des erreurs individuelles à droite à gauche. Parce que collectivement, il y a quand même des mecs buts. Qui sont bien sortis. On a donné deux buts. Et Salzbourg a été très sérieux et il faudra les débattre à la maison. Mais d'ici là, je pense qu'on sera en meilleure forme et qu'on n'aura pas de carton rouge parce qu'encore une fois, on ne sait pas jouer à 10.
Voilà pour moi. C'est même pas le plus dur. Hein.
Phil, tu mettrais qui tes top et tes flops sur les prestations individuelles?
Bon, ça va être très très compliqué, mais je pense que top c'est João Neves. C'est un des rares qui a couru pour combler un peu ses lacunes. Alors le problème c'est que quand tu es un de moins et que tu as une équipe qui utilise la largeur pour vraiment te faire cavaler et qui contre en plus, enfin. Ils ont tout fait pour qu'on court le plus possible. J'ai beaucoup aimé le match de Moussa aussi dans l'effort, dans les occasions qu'il a su se créer. Alors bien sûr, comme disait Daniel aussi, il y a le manque de ce truc de cet instinct de tueur, tu vois. Et d'ailleurs l'occasion qu'il a où il est hors jeu, où il essaie de piquer le ballon alors que tu as juste Ba qui est à côté, ça montre un peu le garçon, mais derrière il va se créer une occasion où il prend le ballon quasiment à 40 mètres du but et il se l'emmène. Il a eu un gros client avec Pavlovic aussi aujourd'hui, donc j'ai trouvé qu'il a fait un bon match et que pour l'instant il justifie sa place de titulaire. Di Maria, tant qu'il avait encore un peu de jus, a su nous donner quand même un match assez bon dans ce qu'il a pu. Après, quand tu as un match comme ça, c'est forcément toute analyse est biaisée parce que tu as l'impression de partir en handicap, tout simplement. Je maintiens, c'est un match type Football Manager ou Foot Champ, tu vois. Genre, tu as l'impression, eux, et tout leur réussit, et toi, rien ne va, et c'est juste un match qu'il faut... Je dirais pas oublier, au contraire, il faut le garder en tête.
Non, un apprentissage, que ce soit pour Trubin, pour Antoine Silva, même pour tout le monde. Tous, ouais.
Et même pour les supporters aussi, je dirais.
Mais tu vois, j'ai le même goût. Enfin, là, c'est plus délicat parce que ça donne style. Mais le match contre Borussia, il me met sur le même truc. Tu dis, mais si t'es facile, si tu fais pas d'erreur à la con, tu gagnes ton match tranquille. C'est ça qu'il faut.
Je regarde le match chez un pote contre Borussia et je lui dis à la mi-temps, là, faut mettre un deuxième parce que ce genre de match, c'est vraiment des matchs à la con. Il peut arriver un truc à la con et tu peux perdre le match bêtement.
Mais t'as la même chose ce week-end, Vizela, tu dois tuer le match 4-5 buts. Tu vois,
tu finis par trembler.
Tu finis par 2-1, tu prends une occasion, un but. Et en fait, il y a un truc où je veux bien de... Ouais, des fois, l'arbitrage pas ouf, etc. Ou pour moi, le penalty est vite fait, et bref. Mais je veux dire, avant qu'on arrive à ce moment-là de l'arbitrage, il y a le truc de « tu dois tuer ton match ». C'est pas possible que Rafa, par exemple, il faut qu'il ait 4-5 occasions franches pour tirer un but, tu vois. C'est très bien, il est en forme. Mais en fait, il nous faut beaucoup trop d'occasions pour marquer. Et c'est là où, pour moi, je te dis qu'il nous manque une référence devant. Di Maria, c'est super. Di Maria fait ses matchs. Encore aujourd'hui, début de match, il est en folie. Tu sens que c'est un Di Maria sur les 45 premières minutes où il peut te porter l'équipe. Quand on passe à 10, c'est plus compliqué parce que là, il faut faire beaucoup plus d'efforts. Mais à 11, je pense qu'on a un Di Maria des grands soirs. Le corner rentrant qui tente, etc. C'est super. Mais il faut plus de certitude. Il faut plus de certitude. Donc en fait, ce qui va pardonner le truc, c'est ouais, on était à 10. Mais la manière dont on est arrivé à 10 dans cette compétition-là, c'est pas normal. Surtout dans un groupe où littéralement, tu peux finir premier comme quatrième.
C'était la suite de ma question. Le prochain match à Inter, là-bas, compliqué. Est-ce que vous êtes confiant ou pas pour. Je pense qu'on est Béfica maintenant en 2023, on doit viser la deuxième place, on ne doit plus parler de troisième place.
Même la première.
Tu pourras jouer l'Europa League et la gagner parce que tu es potentiellement possible vainqueur de l'Europa League. Mais quand tu es Béfica, tu dois jouer la première à la deuxième place. Est-ce que vous êtes confiant ou. Parce que même la Real Sociedad, ils ont quand même tenu en échec l'Inter. J'aurais pas les matchs, mais à ce qui paraît, c'est vraiment très solide et très bon. Donc voilà, est-ce que vous êtes confiant ou pas pour la qualification
Alex, tu peux pas passer de. Je vais pas dire la majorité, mais d'une tendance où tu entends des mecs te dire qu'ils veulent une troisième Ligue des Champions à, après une défaite à la première rencontre, se dire bah, au pire des cas, l'Europa League. L'Europa League, pour moi, c'est inimaginable. Inimaginable. Encore une fois, moi, je vous demande pas de la gagner parce que. Voilà, hein. Déjà avoir tous les postes à un top niveau, c'est pas le cas. Je vous demande juste, encore une fois, de bien représenter le club, de faire le taf et d'aller chercher de premières places. Et pour moi, dans cette poule, désolé, t'es chapeau 1. Outre l'Inter, qui est autant respectable que nous, la Sociedad et Salzbourg, ça fait du super boulot depuis une dizaine d'années. C'est top. Mais tu es Benfica. Et à côté, il y a l'Inter.
Il n'est pas acceptable.
Comment ?
C'est pour ça que la défaite de ce soir, elle n'est pas acceptable.
Surtout à domicile. Tu peux pas. C'est 3 points et c'est tout. Pour moi, tu vois, il y a ce truc de oui, on ne peut pas toujours gagner. D'accord, on peut l'entendre de temps en temps. Mais sur des matchs comme ça, tu dois les gagner. C'est 3 points ou rien. Tu les as perdus. Pour moi, le prochain match, l'erreur. Enfin, pour moi, il faut qu'on fasse match nul. Et encore eux, qui a eu match nul du côté d'Inter et Sociedad. Je ne pense pas que Salzbourg font 6 victoires, tu vois. Tu vois, c'est un groupe où, pour moi, Salzbourg, sur la double confrontation avec la Sociedad, bah, ils peuvent se tuer, ils peuvent se mettre une balle dans le pied ou faire une victoire, une défaite. Donc, ça va être un groupe très ouvert, tu vois. Mais les matchs comme ça, il faut gratter des points directs. Tu peux, en fait, tu as potentiellement l'occasion d'arriver sur la troisième journée avec 0 points. C'est délicat. Porto l'a fait l'année dernière et s'en est plutôt bien sorti parce qu'ils finissent qualifiés premiers. Mais nous, j'aimerais bien qu'on se fasse pas de frayeur, qu'on maîtrise notre sujet. Et je trouve pas qu'on maîtrise comme l'année dernière. L'année dernière, on était en maîtrise, on savait très bien ce qu'on faisait. Là, je sens qu'on n'est pas encore dans le truc de se dire on est sûr de nos forces, on déroule. On n'a pas encore notre 11 type et on peut pas encore dérouler. Donc ça, il faut vite qu'on rentre dans ça et qu'on récupère les derniers gens qui sont blessés. Et contre Pultimain, j'espère déjà voir des Guedes sur le banc, des Jurasek, des Bernat. Jurasek qui était sur le banc, mais aller chercher cette place de titulaire et avoir un Orsnes qui va titiller Jean-Mario pour ce côté gauche, au-dessus. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais Orsnes devant aussi, pour moi, il nous manque aussi. Même si Jean-Mario est plutôt bon sur les 2-3 derniers matchs.
On a des questions, donc on va finir cette émission par répondre à vos questions parce qu'on a eu pas mal depuis le début de l'émission et on vous remercie. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette émission. Ça nous fera plaisir. Donc, on a une question déjà, c'est quand Jurasek sera de retour, il se passe quoi pour Orsnes ? Que c'est joueur Mario ou Rafa qui saute ?
Non, c'est Rafa ne bougera pas.
De toute façon, le seul qui peut potentiellement sauter Rafa, c'est soit tu mets un Guedes derrière l'attaquant, ou alors il peut mettre Kokchou plus haut, parce que de base c'est un 10, et du coup Florentino et Neves. Mais
Philippe, je crois que outre Odyssey la semaine dernière, je crois que c'est Rafa le joueur dont
je... Non, mais je ne le vois pas. Bien sûr.
Rafa est trop important pour la couleur centrale, pour la profondeur.
Pour la tactique actuelle. Parce que c'est le plan de jeu actuel qui veut que Rafa, les qualités de Rafa sont les meilleures pour le plan de jeu actuel. Mais je pense que le plan de jeu actuel est calqué aussi sur les qualités des joueurs en question. La preuve, Schmidt est un entraîneur qui avait beaucoup de... d'ailier qui allait en un contre un avant, que ce soit Leverkusen ou PSV, et là c'est pas le cas parce qu'il s'est adapté aux joueurs qu'il avait. Donc et je pense que Rafa est un des joueurs central de sa tactique, et les minutes qu'il a eu l'année dernière le démontrent. Donc dans tous les cas, lui, il ne sautera pas, tant qu'il ne sera pas forcé à le faire. Donc je pense que ouais, non, ça sera Jean-Mario qui sautera, parce que Horchnes est un joueur aussi pareil que Schmidt mettrait difficilement sur le banc, je pense. Donc je pense que ça va être ça.
T'as eu pensé de Morato?
Bah, plutôt bonne entrée, moi, j'ai trouvé. Hein.
Oui, il a fait son top.
Il démontre juste que c'est même pas normal qu'il soit pas titulaire.
Plutôt bonne entrée. Il a une première intervention où s'il la fait pas, ça peut partir en contre, en deux contre un, tout simplement. Alors, l'attaquant joue mal le coup, mais lui aussi joue très bien le coup. Il joue comme un ancien, en fait, comme s'il avait déjà 29 ans.
Mais moi sincèrement, je pense qu'honnêtement, on ne se rend pas compte du joueur que c'est. Je pense que s'il part par malheur en janvier ou en fin d'année sans ayant eu une saison en titulaire, je l'aurais vraiment traité de la gorge, parce que c'est un sacré joueur. Et j'espère qu'on ne fera pas l'erreur de cramer Otamendi, parce que j'ai vraiment peur de ça. Et que quand vraiment il aura des phases de moins bon, on n'hésitera pas à mettre Morato titulaire.
C'est pour ça qu'ici même on avait parlé de est-ce que c'était une bonne idée de renouveler Otamendi ou pas.
Non, mais moi, encore une fois, sur ce débat-là, et on va pas partir sur 10 000 débats, mais très très brièvement, encore une fois, je comprends qu'on soit pour ou contre. Maintenant,
oui, pour pas moi, bonne ou mauvaise décision.
En fait, pour moi, c'est une fois que tu l'as, juste expliquer, juste être d'accord sur le fait qu'il ne sera peut-être pas, enfin qu'il ne sera pas titulaire indiscutable. Qu'il y a des mecs derrière qui sont très costauds, et que voilà, c'est en fait, le problème, c'est qu'il y a un statut. Il y a un statut qui est en train d'être établi entre lui et Di Maria. Alors, je sais que c'est facile à dire comme ça, et que quand tu as les deux champions du monde devant toi, qu'ils sont professionnels, et puis moi, on m'a déjà dit, et puis c'est ce qui est dégagé dans la presse, ou tu as même dit dans le vestiaire, bah en fait, c'est quand ça allait très mal, c'est-à-dire 2 ans, c'est lui qui a tenu le club, littéralement, et que c'est l'image du club, c'est la tête d'affiche du club, et ça, je l'entends. C'est pour ça qu'il est capitaine et qu'il est respecté par tous. Mais. Je veux dire, pour moi, le capitaine aussi, s'il y a des moments où il doit s'asseoir sur le banc, bah, il faudra peut-être que ça soit. J'ai l'impression qu'il ne pourra que s'asseoir s'il se blesse. Et ça me fait chier. Ouais. Parce que Morato mérite d'être titulaire. Oui, voilà, tu vois, là, Morato va jouer à Milan, c'est cool. Donc, ouais. Voilà, peut-être qu'il jouera le match contre Porto aussi, je ne sais pas.
Et puis Morato, bon. T'apporte aussi quelque chose que tu n'as pas forcément avec les deux
autres. Lance.
Avec ton lance.
La relance.
Balle au pied.
Et surtout que pied gauche, 1, 2, 3, 1, 2. Antoine Silva, Otamendi, c'est pied droit, complémentaire. Mais Morata, il ne relance que très peu ont, et il t'apporte des choses que d'autres n'ont pas. Mais ça, on l'avait déjà vu, on l'a déjà vu depuis très longtemps pour nous. Mais je veux dire, pour tout le monde, pour les gens qui regardent les matchs le week-end, tout le monde a dû s'en rendre compte l'année dernière quand il commence titulaire, avant qu'il se blesse. Dans le jeu, il était déjà essentiel avec ballon. Enfin, moi, je trouvais.
Clairement, parce qu'en plus, bah, ça te permet d'avoir un gaucher à gauche, ça te permet, comme tu disais comme hier avec David Carmo, etc., d'avoir des lignes de passe qui s'ouvrent, etc. Donc forcément, c'est dans le jeu, c'est plus facile. Et ça te permet aussi d'éviter de voir Neves ou Okoksu de redescendre pour former une ligne de 3, pour avoir quelqu'un à cette relance, etc. Ça te permet d'avoir aussi tes milieux plus hauts, etc. Quand tu as quelqu'un qui est aussi fort à la relance pour la première phase de construction, ça peut être très intéressant. Donc c'est vrai que j'aimerais le voir davantage titulaire. Pour ce qu'il mérite, et que je pense que le garçon, ça va faire 3-4 ans qu'il est au club, il mérite sa chance, et j'ai peur aussi qu'il commence à se lasser. Je pense qu'il s'est déjà commencé à se lasser, d'où sa demande de départ cet été. Koksou mérite-t-il d'être titulaire selon vous encore?
Enfin, désolé, mais il n'y a pas de débat. Enfin, oui. Enfin, c'est pas le problème, c'est pas Koksou. D'ailleurs, c'est ni Koksou ni Neve, de toute façon. C'est juste trouver le moyen de faire performer tout le monde quand il joue, tu vois, et du coup avoir peut-être des paires plus complémentaires. Mais par exemple, on peut avoir un Koksou et Neves contre Vizel, où c'est hyper intéressant d'avoir les deux. Mais peut-être que par exemple en Ligue des Champions, selon l'adversaire que tu vas avoir et dans ce genre de match-là, et faut peut-être une autre paire. Ou en gros être complémentaire. Pour moi, sur ce match-là, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un Koksou titulaire et Tino à la place de Jean Neves. Et là, on revient un peu à ce que tu disais, Mathieu. Le statut de tel joueur a coûté tel prix. Et donc, du coup, est-ce que c'est plus délicat de le sortir? Peut-être que c'est plus délicat de sortir Koksou que Jean Neves, mais je préfère, j'ai peut-être plus confiance à Koksou qu'en Jean Neves sur ce genre de match pour accompagner Tino.
Ouais, je suis d'accord.
On a une remarque qui dit que le match de Benfica n'est pas mauvais si tu enlèves le score. Je peux pas enlever le score, malheureusement. C'est
ça, non, mais je vois ce que veut dire la personne.
Le contenu est bon, mais le score est trop important, surtout avec les champions.
Mais en fait, le contenu est bon, si tu prends le contexte, parce qu'on a 10. Enfin, sur 30 minutes, parce qu'on a 10, soit le contexte est bon, parce que tu dis, putain, même à 10, on les inquiète, donc à 11, on aurait été meilleur. Ouais, le problème, c'est qu'on n'est pas 11 et qu'on s'est chié dessus. Eux, ils ont marqué derrière, ils avaient juste à attendre de nous mettre le deuxième et ils n'étaient pas forcément très inquiétés. En fait, ils pouvaient être inquiétés s'ils prenaient ce rouge-là. On a cherché ce rouge. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas trop aimé voir Di Maria plonger 2-3 fois pour échapper ce carton. On voulait qu'ils aient prendre ce rouge-là. Il y a un moment donné où peut-être qu'il doit prendre le second rouge, mais il ne le prend pas.
Ouais,
le second jaune pour prendre le rouge. Et dès lors qu'ils ont eu cette occasion qui est passée, l'entraîneur de Salzbourg a sorti le joueur. À faire un changement direct pour pas qu'il y ait de risque. S'ils ne passaient pas à 10, c'était un match où ils avaient juste besoin de gérer correctement et d'être sérieux. C'est ce qu'ils ont fait, donc bien joué.
Ok, il n'y a plus de questions, je crois, ou bien des questions m'ont déjà répondu, notamment sur le débat bas, etc. Donc voilà, les garçons, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur la prestation?
Juste parce qu'on m'a fait la remarque, c'est vrai, on a remonté un score contre Glasgow Rangers à 10.
C'est plus de Darwin, non?
J'ai plus
c'est le retour
2020.
C'est quand Ramos fait sa talonnade là, je crois.
Quand tu joues l'Europa League d'ailleurs.
Ouais. Quand je joue là l'Europa League, quand Ramos rentre et qu'il fait cette fameuse talonnade pour faire la passe. Où il était bon dans le jeu à l'époque. Non mais voilà, c'est tout. C'était ma petite info qu'on m'a transmise sur Twitter.
Mention spéciale les garçons du coup.
Juste un petit truc. Vraiment c'est un peu global aussi. Parce que je trouve qu'il y a quand même des similarités avec les deux équipes qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on a des entraîneurs qui ont fait un très bon travail la semaine dernière, de coachs qui ont trouvé des solutions, mais qui ont aussi montré des lacunes ou des petites faiblesses, ou des grosses faiblesses la semaine dernière. Et qui, cette saison, parce que la saison est différente, parce que tu as des joueurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, parce que tu as parfois de la surperformance, que tu vas être jugé sur cette capacité pour ces deux entraîneurs à être capable de retrouver un niveau de compétitivité aussi important que la semaine dernière, et surtout d'être capable d'apprendre de tes erreurs et de montrer que tu n'es pas têtu, de montrer, même si je pense que ça va être très dur pour Roger Schmidt, mais de montrer que tu es capable de faire en sorte que sur les points, sur la gestion qu'on avait évoqué notamment avec Roger Schmidt la dernière, son effectif qui t'a peut-être coûté un peu sur la fin de la semaine dernière, sur ces petites choses-là, c'est là où on voit finalement si le travail il est bon ou pas. Tu peux pas tout travailler, ou en tout cas tu peux pas être bon une saison potentiellement peut-être partout, mais sur 2 saisons, 3 saisons, tu dois montrer cette capacité à apprendre de tes erreurs et à aller de l'avant là-dessus. Je trouve que ces deux coachs ont montré de très bonnes choses, mais aussi montré des faiblesses parfois importantes, et que on leur laisse le temps, et qu'avec ce temps-là doit permettre de travailler sur ça, et que si à la fin de la saison tu n'as pas véritablement de nouveautés, et si tu te fais même plomber à cause de ça sur certains matchs, sur certaines compétitions, sur certaines éliminations potentiellement dans les compétitions, sur les coupes, ça doit forcément, je pense, même si tu laisses du temps et qu'il faut laisser du temps à l'entraîneur, ça doit rentrer dans le bilan, cette capacité à se remettre en question et à tout simplement être capable de changer, parce que le football change rapidement, que les effectifs changent et que les contextes changent, et qu'il faut s'adapter en fonction.
C'est deux entraîneurs qui ont à peu près la même philosophie de jeu, et on l'a notamment vu sur le début de match, et c'est pour ça qu'on a eu un début de match extraordinaire. Franchement, c'est mon plus gros regret, c'est que le match n'ait pas continué à 11 contre 11, parce que je pense qu'on serait régalé sur 90 minutes, où vraiment ça partait d'un but à un autre, où l'équilibre n'était pas vraiment la priorité des deux équipes, on va dire. Mais vraiment, deux entraîneurs à la philosophie de jeu semblable, pardon, mais très intéressant. Mais ouais, je te rejoins sur le fait que, surtout sur côté Roger Schmidt, il n'y a pas vraiment de remise en question, et que ça peut vite mener à sa perte, comme ça l'a été sur les précédents clubs qu'il a entraînés, malheureusement. Les mentions spéciales. Mathieu, vas-y, est-ce qu'on continue un peu? Si t'en as une.
Sur l'élan, naturellement, une petite mention spéciale pour notre équipe de Youth League. Mmh. Premier match de Youth League, c'était aussi partie du charme de cette belle journée. Premier match, première victoire face au 19 du Napoli. J'ai pas pu voir le match de manière très attentive, mais une victoire à 0. Et pour une équipe qui, pour moi, peut faire un parcours intéressant en Youth League. Donc, en Ligue des Champions, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais en Youth League, j'ai de l'ambition et de l'exigence vis-à-vis de cette belle génération 2005 du Sporting Club de Braga.
Clairement, pardon. Phil ?
Bon, je pense que Danny va partir sur la Youth League, donc je vais partir sur autre chose. Moi, ça va être surtout sur la victoire de la sélection en futsal, qui aujourd'hui a joué son deuxième match de qualif pour la Coupe du Monde. Donc voilà, juste pour changer un petit peu de registre, tout simplement.
Ok, Danny.
Mention spéciale à l'attitude d'Antonio Silva après le match.
Contre-pied.
Qui vient en flash inter. Ouais, non, puis non, pas Youth League.
Même bien accroché.
Non, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire sur
le Youth League.
Je ne sais pas, si Alex est d'accord, mais il n'y a pas grand chose à dire sur le Youth
League. Oh non.
Je ne suis pas encore satisfait. Il me laisse ça sur le même boucle l'année dernière pour l'instant. Non, c'est pour Antoine Silva, très bonne attitude de venir. Enfin, après, ça vaut ce que ça vaut, mais de venir s'excuser face à la caméra pour dire que voilà, il a mis en galère ses coéquipiers qui s'en veut. Et qu'il est quand même fier de l'équipe d'avoir essayé de répondre présent, etc. Mais qu'il est désolé d'avoir pris rouge. C'est aussi important, c'est un respect envers les supporters. Et ça arrive de se tromper, ce qu'il faut, c'est vite repasser au-dessus et se concentrer sur le prochain match.
Même quand il sort, il dit plusieurs fois pardon, etc.
Voilà, ouais, non, mais oui, non, mais. Pour moi, son geste, c'est vraiment un geste du mec qui. Putain, c'est mon club, je peux pas faire cette connerie. Pour moi, c'est Suarez Ghana. C'est vraiment, je mets les mains parce que c'est la dernière impression que j'ai trouvée.
Mais en fait, tu vois, il utilise son bras pour prendre impulsion. Et quand il redescend, il voit qu'il y a un mec. Et vraiment, tu le vois faire
j'ai envie de faire, mais tu sens que ça.
Après, derrière, il se cache en mode, ça se trouve, personne ne m'a vu. Sauf que, frérot, il y a des caméras, il y a la VAR. C'est pas cool,
il l'a fait exprès. Mais faut le voir en mode, il l'a fait exprès. Mais parce que le mec, il voulait tellement sauver le truc qu'il a tenté un truc.
Mais en fait, c'est un truc à la con. Parce que c'est encore plus préjudiciable pour l'équipe.
C'est là que tu vois où l'humain il peut être débile quand il est vraiment sous un danger de fou. Là, pour lui, c'était le danger ultime. Il s'est dit, oh, vite, il faut que je le sauve. Mais non, parce que là, mais tu vois, derrière, il se met les mains sur le visage.
C'est la même chose de quand ta poêle prend feu, tu mets de l'eau pour éteindre. C'est complètement con. Mais c'est un réflexe. Et je crois que c'est ce qu'il a voulu faire.
Et du coup, c'est là que
la maison, elle a pris feu.
Si je peux dire un truc, le truc c'est que les matchs étaient en simultané et moi j'ai vu les messages du groupe WhatsApp à la mi-temps et j'ai vu Antoine Silva faire une Suarez, mais pour moi c'était la morsure, c'était pas la main.
Comme Kevin, ils ont compris ça, il a compris ça.
Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est un match de fou. Bon, c'était un peu un match de fou, mais alors là je me suis dit, mais pourquoi?
Non, my bad, j'aurais dû préciser que c'était Suarez version Ghana et non pas version,
Italie.
C'était Italie. Il avait les crocs. Toi, Alex, t'as une mention ?
Ouais, mon sous spécial à Vitinha et Jean-Félix qui nous ont régalé hier. Très content parce qu'ils se sont fait décrier souvent à tort et voir ce genre de prestations, notamment pour Vitinha contre Dortmund, parce que oui, c'est pas le grand Dortmund, mais ça reste une belle équipe européenne. Ça fait très plaisir et ça montre juste qu'il a le niveau pour jouer au PSG. On pourra me dire ce qu'on veut. Il a le niveau pour jouer au PSG, il a démontré, en espérant qu'il va gagner un peu plus en régularité, parce que c'est vrai que parfois il peut passer à travers et ce qui peut être agaçant. Et Jean-Félix qui montre tout simplement qu'encore une fois, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Et une fois que
sauf tu pour Odysseas, il ne faut pas oublier. C'est
ça le but. Et quand tu mets les bons joueurs avec les bons entraîneurs, avec les bons dispositifs, avec un entraîneur qui parle le même foot que toi, tu te régales et là il nous régale.
C'est le meilleur joueur du monde. Hein.
Comment?
C'est le meilleur joueur du monde quand il est comme ça.
Ah, quand il est comme ça, c'est central. C'est pas le meilleur joueur du monde, mais il fait partie des tout meilleurs. Et...
Oui, bon, non, t'as raison, c'est une légende du football moderne, totalement.
C'est déjà une légende du Barça.
C'est déjà une légende du Barça.
Trop fort. Les Barcelonais sont en train de flipper de ouf.
Léo,
trop nul.
Moi, j'ai envie de dire
le match hier, il était pas bon. Il était pas bon du tout.
Ah ouais.
Nonchalant au possible.
Ah ouais, son action il dribble toute la planète là.
Mais même pas. Il y a... Non mais ça, mais il y a un moment où vraiment pendant un petit moment, il reste dans la surface. Il demande des ballons, et il râle en plus. Il est pas content.
Ouais.
Comment tu me l'avais pas là? Il y a 3 joueurs sur lui. Dans la surface, arrêtez. Mais qu'est-ce que tu fais, gros?
Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on parle jamais de Léao. On parle pas de la saison dernière de Léao si Osimhen est à 100% pour le quart de finale des champions. Oui, j'ai encore le seum.
Le match d'aujourd'hui?
Ah non, mais Osimhen à 100% en quart de finale des champions, Naples passe le quart de finale l'année dernière. Et on parle pas de Léao de la saison.
Mais.
Osimhen, c'est costaud. Force à la personne qui est malade, je sais pas c'est qui, mais.
Ouais, il y a quelqu'un qui décède. Hein,
c'est mon côté, je pense, ouais, ça.
Ah.
Il est temps de l'envoyer de la rendre à la boutique.
Pardon.
Et pour pas laisser en vue Damien de notre côté dans le chat qui demandait qui avait posé la question de pourquoi Salazar puisque André Horta et Moutinho en deuxième mi-temps face à pour Braga. J'ai rebondi dans le chat, mais voilà sur André Horta, je pense c'est pour rajouter que j'aurais mis André Horta si j'avais été entraîneur ou Jean Moutinho. Parce que finalement, sur la fin de match, tu te rends compte que le Naples défend beaucoup plus bas qu'en première mi-temps. Et que donc, ça aurait été peut-être... Salazar fait cette passive, et tant mieux. Mais je ne pense pas qu'il ait fait entrer pour ça au départ. Et que donc, un André Horta ou un Jean Moutinho aurait été un peu plus tôt dans la rencontre, aurait été intéressant pour débloquer et peut-être d'autres solutions face à ce bloc pas napolitain de la fin de rencontre.
J'ai cru que t'allais dire, il y a un internaute qui nous a demandé Salazar ou Ronaldo, et j'étais vraiment préparé à ça. J'étais vraiment, franchement, dans ma tête, c'était ça. Quand t'as dit Salazar, on va pas, j'ai fait OK. Je me suis enlevé le fil de ma tête. Vraiment, t'as dit Salazar, j'ai la tête de Salazar. J'avais vraiment juste Salazar. Mais okay,
c'était quoi la question? C'est savoir si lequel des deux est le plus mythique au Portugal. Il y a eu vraiment des sondages. Hein,
je sais pas, Salazar a pas été accueilli comme ça en Iran, en tout cas.
C'est peut-être pour ça que Salazar joue pas beaucoup, c'est pour éviter ce genre de blague.
Non, mais c'est ce qui définit qui est le meilleur dictateur des deux. Il y en a un qui s'est fait acclamer en Iran, pas l'autre.
Donc, ouais. Comme ça. Mais toi, t'es un peu dans un autre monde avec Ronaldo en ce moment. Je n'arrive pas à te suivre.
C'est même pas contre lui, c'est les fanatiques en ce moment. Ça dépasse.
Ce qui est malheureux, c'est que.
Non, parce que par exemple, il a été naze en faisant un match en Iran, et je m'en fous, tu vois, j'ai pas été sur ses côtes, ça arrive.
Il était naze. Parce qu'il a été naze face à une équipe, pour moi, c'était un film en fait, Persepolis. C'était.
non, mais vraiment, je vois le match, vraiment, moi, je regarde le match, je me dis, ok, huis clos, je me dis, ok, bon, c'est tellement la galère qu'ils peuvent même pas accueillir des gens. Après, peut-être qu'ils sont interdits de stade, je sais pas, hein, mais ok. Et là, je regarde le match. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu vois, autant Neymar, il n'a pas été bon, parce que j'ai regardé aussi le match de Al Hilal. Il n'a pas été bon. Parce que c'était en gros sur un temps où il n'y avait rien à ce moment-là, parce que c'était lundi, je crois. Et genre, en mode, je vois Neymar, et vraiment, Neymar, il était vraiment en mode, j'ai la flemme, j'ai pas envie de jouer. J'ai pas envie de jouer. Genre, ils s'en battaient des couilles de fou. Mais le problème, c'est que Ronaldo, c'est pas, il s'en bat les couilles. Il est investi. Et il n'est pas bon. Et il est bon à certains matchs, hein, mais c'est pour ça qu'il est fait aussi comme un fou. Mais il y a des joueurs vraiment, ils sont en mode, ils s'en foutent. Et lui, il est vraiment investi en mode, il faut qu'il tape ses records. Quoi. Et donc, quand il n'est pas bon en Iran, ça me fait rire, mais je ne le tweete pas, tu vois. Je m'en fous.
Ça ne m'impacte pas. Tu te rends compte, parce que là, je vais le dire aux auditeurs, tu te rends compte, depuis que je te connais, je te dis, regarde des matchs en replay, ça va t'aider. Tout ce que tu fais, si tu regardes pas les matchs en replay, tu regardes la ligue asiatique des équipes d'Ouzbékistan et d'Iran. Tu te fous de ma gueule, franchement.
En toute honnêteté, si j'avais du replay très accessible sur ma télé et non pas sur le PC, ouais. Je pense que je le ferais. Tu vois, mais ouais, j'aime bien Switch. Chen est tombé sur un joli match de Al-Nasser en Iran.
Pour nos auditeurs, Persepolis, c'est vraiment un film. Hein. Je n'ai pas dit ça pour rien.
Mais c'est aussi une équipe de foot, apparemment. Du moins, c'est ressemblant.
D'ailleurs, j'ai pris ça hier.
Voilà.
Ok, les gars, bah, on va couper là-dessus. Merci à vous trois d'avoir répondu présent en ce mercredi soir de défaite, malheureusement. On se retrouve de notre côté demain pour un space pour le match du Sporting, parce qu'il y a encore un match, il y a encore une équipe en lice, hein, comme sur les pour l'Europa League. Donc on reviendra sur le match du Sporting demain et on revient aussi la semaine prochaine pour un live. Et voilà, on est lancé, la saison est lancée. Donc on vous dit bah, merci à tous d'avoir participé ce soir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur les réseaux.
Et c'est qui joue demain d'ailleurs?
bah, Sporting.
Quelle compétition?
L'Europa League.
Quel jour?
Mais par contre, tu garantis une émission demain. Par contre, on essaiera de vous trouver des chroniqueurs pour regarder ce match de merde. Donc, on fera notre possible. Hein.
Je dis ça, mais je me suis porté volontaire pour regarder ce match. Mais c'est plus parce que j'ai envie de voir un peu ce Tom Grass.
Je crois aussi pouvoir être disponible.
Viens, Philippe, demain.
Je crois bien. Après, il y a un Rangers Betis aussi qui me chauffe. Donc,
À quel heure est Sporting?
Ah non, mais c'est Ajax-Marseille. Ah, c'est
20h45, 21h. C'est comme.
Ah ouais, mais il y a Ajax-Marseille en même temps. C'est le.
Oh, ça y est, deux équipes qui sont aussi.
C'est le clou Nico, là.
Ouais. Bah, moi, vous savez ce que j'ai, moi, demain? Bah, demain soir, j'ai pas d'elle.
Oh putain.
Ah. Première.
Ouais. Avec qui déjà?
Avec Sporting. Ah, je le dis.
Tu vas
kiffer. On m'a proposé, j'ai dit oui, allons voir.
Parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas, c'est qu'on a créé une équipe de paddle dans Golasso et franchement, là, on va faire les tournois bientôt. Ouais. Et...
Plus efficace que pour des failles.
Il faut 10 joueurs pour un faille. Le paddle, il en faut 4.
Voilà. Il faut 10 joueurs bons en plus. Et là, ça devient plus compliqué aussi. Non, mais on fera bientôt des tournois.
Il y en a qui sont que d'autres. Hein.
On fera bientôt des tournois paddle. Donc, ceux qui me détestent parce que j'ai l'aime Ronaldo, vous pourrez venir me claquer la gueule avec des balles. Ça sera avec grand plaisir.
Ça peut être sympa comme activité.
Et si vous voulez, cool.
T'envoies la raquette direct. Ah, c'est celle Bédani.
Et si vous voulez, on fait les règles de Steph et on a le droit d'utiliser le mur derrière, tu vois.
Ah, on peut pas ? Ah,
Steph.
Non, on peut pas.
Tu joues pas avec Steph demain ?
Non, du tout.
Non, ok, non. Tu vas jouer avec des vraies règles. Alors.
Non, je ne joue pas avec des gens qui ne savent pas jouer au paddle. Qui n'a jamais touché une raquette de sa vie.
Merci. Non, c'est les premiers qui te disent qu'il faut aller jouer au paddle, mais qui ne connaissent pas les règles.
Alors qu'il y joue chaque week-end ou chaque jour.
Chaque jour.
Depuis un mois.
Il ne connaît pas les règles.
Depuis un mois. C'est
après, regarde le foot, il ne connaît pas le foot non plus. Donc tu me diras,
c'est... Oui, c'est vrai. Non, mais après, c'est un supporter du FC Porto. Il joue avec leurs règles. Donc c'est comme ça. S'il pouvait envoyer la balle avec la main, il le ferait.
Et comme il ne va pas écouter l'émission, il ne va pas nous en.
Il ne va jamais savoir qu'on la troll à mort.
Exactement, c'est pour ça.
Les gars, merci. Auditeurs, merci. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Et bonne nuit.
Ciao, ciao. Bonne soirée à tout le monde.
Et bonne nuit. Ciao.